Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site rl.fédération-anarchiste.org.
Rocío en las manos, rocío, agua desde el cielo, tierra mía y solo la inmensa marea, las estrellas soles, no bajes sediento al árbol que tanto te ama, lo que fue, fue para siempre, lo que queda son las raíces que se asoman transparentes, tus flores ya dan sus colores. Se asoman transparentes, tus flores ya dan sus colores. Los labios del sueño, olvido de palabras, los dedos del viento. Soy el árbol del que eres sol. Rocío en las manos, rocío, agua desde el cielo, tierra mía y sola, la inmensa marea, las estrellas soles, no dejes sediento al árbol que tanto te ama, lo que fue, fue para siempre. Que queda son las raíces, no dejes sediento al árbol que tanto te ama.
Et Réveille-Maux ne trouble pas ma sieste. Notre invité a été un peu coincé dans les transports et est arrivé en retard. Aujourd'hui, il faut dire qu'il vient de loin, il vient du Chili, enfin d'Ivry. Bonjour Sébastien, tu as vu que... Attends, ouais. Le micro vert, je t'ouvre
là,
ton
suis.
Micro.
Tu m'entends bien?
Oui, oui, là je t'entends.
Là,
bien.
Je suis devant le micro vert, effectivement.
Voilà. L'émission a commencé là.
D'accord.
On t'entend jusqu'au Chili. Ouais, en passant par Ivry.
Les voyages étaient un petit peu longs, mais je suis désolé. C'est vrai que j'étais dans les
un
peu coincé dans les transports, mais je suis très très heureux d'être là parce que c'est pas la première fois qu'on se voit, Florence. Je pense que ça fait un moment qu'on fait des émissions ensemble, et moi je suis très très heureux de venir participer à ton émission, surtout par rapport à la thématique et au sujet du spectacle, parce que c'est un spectacle très intime, très personnel, et que tu as vu, et je suis très très heureux de l'avoir vu, que tu l'aies vu. Exactement.
Oui, je vais te dire. Tout le monde avait les larmes aux yeux en sortant.
Bah écoute,
c'est très très beau, c'est magnifique.
Merci. Franchement, ça me. Bah c'est vrai que ce spectacle, il retrace, je dirais, une histoire très intime, qui est l'histoire que nous avons vécue avec ma famille. Donc mon père, auteur, comédien, dramaturge, Oscar Castro, et ma mère, Anita Vallejo, donc musicienne et comédienne. Tous les deux cofondateurs du Théâtre Aleph au Chili en 1968. Donc un théâtre complètement déjanté, on va dire. Enfin, déjanté dans le sens où c'était des jeunes qui avaient entre 20 et 25 ans et qui, à cette époque-là, qui est une époque d'effervescence, faisaient un théâtre qui était engagé, naturellement, mais qui tirait un petit peu sur tout ce qui bouge. Ils étaient très iconoclastes, on va dire. Et voilà.
Alors, j'ai oublié même de te présenter.
Oui, pardon.
Parce que j'étais à la porte, j'avais déjà mis l'indicatif que tu n'as pas entendu, mais qui est en espagnol. C'est un poème de Frida Kahlo chanté par... Enfin bon, bref. Là, tu as amené des disques.
Bah, en fait, j'ai amené un disque. Alors, c'est très important, justement, et c'est un des sujets du spectacle.
Alors, tu as amené un disque de ta mère. Alors, tu t'appelles Sébastiane.
Ouais,
ta sœur s'appelle Anita.
Non, Andrea.
Ta mère.
C'est ma mère, Anita. Ma sœur,
c'est
Andrea.
Parle devant le micro.
Alors, ma sœur, c'est Andrea Castro. Et c'est ma mère, Anita Vallejo. C'est donc la musicienne.
J'ai dit une bêtise ?
Non, en fait, c'est que tu as dit que ma sœur, c'était Anita.
Ah oui, mais
c'est pas grave, Florence.
On a un peu couru, là.
C'est normal.
Alors. Donc, de Sébastien,
oui, dis-moi, Florence.
D'autres jours viendront. J'avais laissé dans l'entrée on appelle ça des flyers,
c'est
des
ça,
petits prospectus
exactement.
Sur votre pièce. Mm-hmm. Il n'y en a plus, ça veut dire que ça a été emporté.
Ah bah écoute.
Il en reste pour l'autre pièce qui va avoir lieu le 12, Le rêve est mon métier.
Exactement.
Mais il y en a encore un paquet, mais d'autres jours viendront. L'exil et la mémoire, chronique théâtrale, c'est le théâtre El Duende qui... raconte sur une image. Cette image, on voit l'exil, on voit ton père Oscar qui a dans ses bras ta petite sœur.
C'est ça, tout à fait, Andrea.
Elle a quelques mois.
Oui, elle doit avoir sur cette photo, je pense qu'elle a à peine un an en fait.
Elle a à peine un an.
Oui.
Et toi, tu tiens la main à ta mère et tu as à peu près 4 ans.
Moi, j'avais 4 ans. Ouais.
Voilà. Exactement. Et donc. J'ai dit ce que je pensais de cette belle pièce dans le monde libertaire.
Oui.
C'est dans le monde libertaire en ligne.
C'est vrai. Merci d'avoir. D'ailleurs, on a partagé l'article.
Voilà,
merci beaucoup d'en avoir.
Je crois que ça a été bien regardé. Alors, d'autres jours viendront. C'est jusqu'au 6 avril, le vendredi et le samedi à 20h30, le dimanche à 17h30. Moi, je l'ai vu un jeudi pourtant, mais bon, c'est...
En fait, il y a des jeudis. Enfin, là, il y a par exemple, là, cette semaine, il reste des places que pour demain, uniquement pour jeudi 4. Parce qu'en fait, on est déjà complet vendredi et samedi pour les deux dernières.
Vous allez prolonger quand même.
Bah là, notre lieu, c'est une coopérative. Donc on s'est créé notre propre outil de travail. Donc c'est-à-dire que le théâtre El Duende, c'est le lieu de la compagnie. C'est là où nous jouons nos spectacles. Mais il y a également, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y avait des flyers pour un autre spectacle qui se joue là-bas. Il y a également de la programmation, parce qu'on reçoit énormément de compagnies, et notamment des jeunes compagnies émergentes. C'est là-dessus que nous on travaille. travail, parce que on considère que c'est important de, parce qu'il y a de moins en moins de scènes en fait qui peuvent recevoir des jeunes compagnies, et pour nous c'est important de je dirais de prolonger ce travail pour faire découvrir des jeunes artistes et qu'ils puissent aussi développer leur travail. En gros, nous on avait prévu 12 représentations sur cette série. En général c'est sur 4 semaines. On en a fait beaucoup plus parce qu'on a eu beaucoup de scolaires, donc on a beaucoup de lycéens qui viennent voir le spectacle, donc en gros ça nous fera à peu près 22 représentations. On a joué quasiment, et je pense que c'est ça la beauté aussi de ce qui s'est passé avec ce spectacle, on a été complet quasiment sur toutes les dates, ce qui est quand même assez rare, hein, je dirais, parce que même si nous on a quand même un public qui vient nous voir énormément et qui nous suit, je pense que le sujet, je pense que le besoin aussi d'écouter cette histoire a fait que le public a vraiment vraiment été au rendez-vous, et on est très heureux de ça. Alors effectivement il va y avoir une suite, hein, ça c'est sûr, puisque je pense que on va pas s'arrêter là, on va sûrement reprendre le spectacle, ça c'est sûr, la saison prochaine au Duende. On va essayer de trouver aussi des dates un petit peu à l'extérieur, enfin on est en train de réfléchir à tout ça, parce que en fait c'est quand même un objet, enfin j'ai pas le mot objet, mais c'est quand même une œuvre qui est très particulière. C'est-à-dire que je pense que comme on touche notre propre intimité, c'est-à-dire l'histoire que nous avons vécue, on s'est beaucoup posé la question vraiment de produire ce spectacle sur le long terme. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, pour nous, d'abord, c'était une nécessité de raconter cette histoire-là. Et ensuite, ça restait là déjà. C'est-à-dire, on aurait pu faire une ou deux représentations. Pour nous, c'était important de marquer le coup et de raconter cette histoire en sachant qu'on était dans le cadre un peu de la commémoration des 50 ans du coup d'État. Mais après, ça nous a un petit peu dépassé, je dirais, et dans le bon sens du terme. Parce qu'en fait, cette histoire intime qui a ses racines au Chili au moment du coup d'État, en fait, ça a rebondi sur les histoires intimes de beaucoup de personnes, de beaucoup de spectateurs, qui finalement, dans leur parcours de vie, ont aussi peut-être et ont été amenés à arriver en France aussi avec d'autres histoires, des histoires aussi tragiques ou peut-être moins tragiques, mais aussi se rendre compte que finalement on est tous un petit peu déracinés. Et je pense que ça a été important. Ensuite, je pense que l'état du monde actuel, avec des crises, parce qu'on n'est pas dans un moment, je dirais, où tout est tout est rose, on va dire. On est dans un moment compliqué, un moment de conflit, un moment de déplacement de population. Et je pense que le spectacle fait écho justement à ce moment qu'on est en train de vivre historiquement. Et aussi, je pense qu'il y a aussi autre chose. Je pense également dans l'aspect politique de cette histoire-là. Je pense sincèrement qu'on est aussi dans un moment un petit peu de bascule mondiale où il y a une guerre culturelle autour de la mémoire, notamment menée par l'extrême droite en Amérique latine, et pas qu'en Amérique latine, hein, en Amérique latine avec les hommes de Milei ou d'autres, je pense en Europe également. C'est-à-dire que d'un coup on commence à dire que toutes les morts se valent et que finalement c'est l'histoire de conflit entre l'extrême gauche et puis l'extrême droite, et puis que non, en fait il faut replacer les choses à leur place. L'extrême droite, elle est toujours aux aguets, elle essaye maintenant d'avoir un visage beaucoup plus lisse, mais en fait leur programme et leur histoire, c'est toujours la même. Et je pense que ce type de spectacle, quelque part, ça permet aussi de se rendre compte de ce que ces personnes à travers leur pensée peuvent faire, en fait, tout simplement. Donc pour nous c'est aussi important, donc tous ces aspects là font que le spectacle a vraiment été très très bien reçu, et que oui, effectivement, Florence, c'est une évidence qu'on va continuer à le jouer. Moi j'ai un rêve secret, j'aimerais vraiment beaucoup le jouer au Chili.
Bien sûr.
Je pense que c'est très important de le faire là-bas. Je pense que les rêves, c'est des choses concrètes qu'on peut mettre en place. Il faut trouver l'angle, la possibilité de pouvoir aller le jouer là-bas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu cette histoire aussi, qui font partie de ma famille et qui étaient les amis de mes parents qui ont créé le Théâtre Aleph, donc, parce qu'il s'agit du Théâtre Aleph. Hein. Nous, on est le Théâtre et le Duende, mais dans la pièce, la troupe de théâtre dont on parle, c'est le Théâtre Aleph. Je pense que c'est important pour ces personnes aussi de voir que il y a quelque chose qu'on a recréé, et que du moins on a recréé leur histoire, et que finalement cette fracture, parce qu'il s'agit d'une fracture, parce que beaucoup de personnes qui sont restées là-bas n'ont pas continué à faire du théâtre, ils pouvaient pas déjà parce que là pour le coup la censure était beaucoup plus forte à ce moment-là. Et puis aussi, je pense, est-ce qu'on a le courage, après de vivre tous ces drames, toutes ces tragédies, de continuer à être sur scène? C'est quelque chose de très complexe. Donc, pour nous, c'est important de recevoir, de pouvoir aller à la rencontre de ces personnes-là et qu'ils puissent recevoir, eux, cette œuvre et ce spectacle qu'on fait en hommage à ces personnes-là.
Alors, moi, je me rappelle, j'étais quand même très jeune, le 11 septembre 73, mm-hmm. mais ça a été un tsunami aussi pour nous, chez les gens autour desquels je naviguais. On avait un espoir dans ce Chili d'Allende. On s'est dit, une révolution sans bain de sang.
C'est ça.
Est-ce que ça peut exister? Oui, c'est en train d'exister. Oui. Et alors, le couperet, parce que le bain de sang a été épouvantable, 11 septembre 1973, là, je lis le petit texte que vous avez écrit sur le petit flyer. Mm-hmm. Un coup d'État renverse le gouvernement d'Allende au Chili, marquant le début d'une ère de dictature sous le régime de Pinochet. Cette période sombre de l'histoire chilienne fait des milliers de disparus, de prisonniers politiques, de morts et d'exilés. Anita Baliejo, femme chilienne, exilée politique, musicienne et comédienne, cofondatrice du théâtre Alep et du théâtre El Duende, se souvient, elle avait 23 ans. Aujourd'hui, 50 ans après, elle livre son témoignage à sa petite fille Alma. Cette chronique théâtrale et musicale nous propose d'écouter l'histoire d'un exil au féminin. Alors, elle est musicienne, elle écrit les paroles, elle joue toujours du piano dans
les spectacles, elle compose. C'est Anita, et c'est quelqu'un, évidemment, bon, en dehors, à part le fait que, on va dire que c'est ma maman, et donc et que j'ai la joie et le bonheur profond de pouvoir partager ma passion artistique avec elle. C'est-à-dire que le théâtre El Duende, c'est quand même un théâtre très tribu, très familial. Je pense que la prolongation justement de cette famille et d'exilés qui est finalement à recréer une famille artistique en arrivant en France, ça fait sens. Et c'est vrai que dans toutes nos créations, elle est comédienne, elle est également musicienne. C'est une compositrice incroyable, Anita. Et pour nous, c'était important à l'intérieur du spectacle d'amener, parce que c'est vrai, tu vois, c'est intéressant parce qu'on oublie cette part d'intimité, je répète. Souvent, nous, dans nos spectacles, on fait de la fiction. Donc, on écrit des spectacles, on crée des situations et puis après, on laisse vagabonder nos idées créatrices. C'est la première fois qu'on va dans une réelle intimité et donc dans un travail quasi documentaire où les comédiens jouent plus ou moins leur propre rôle. Là, Anita joue son propre rôle. Alma est vraiment la petite fille. Donc, ce dialogue entre une grand-mère et sa petite fille, c'est un véritable dialogue. On parle de la réalité qu'on amène à la fiction. Et pour nous, il nous semblait tout à fait logique d'avoir un piano, parce que dans la scénographie, il y a un piano qui traîne au milieu, enfin qui est posé au milieu de la scène. En face, il y a donc la petite fille Alma avec donc des carnets, des photos, et il y a cette discussion. Et entre les souvenirs d'Anita de cette époque, il y a ses compositions. Et ça, c'est très important parce que je pense que une chose, ce sont les mots, une chose, ce sont les témoignages, une chose, ce sont les situations, et autre chose, c'est la force, la charge émotionnelle de la musique. Et on a 7 musiciens avec nous sur scène. Hein. On est nombreux sur scène.
Vous avez toujours des musiciens, ouais. Mais là, il y en a particulièrement beaucoup.
En fait, c'est vraiment un choix assumé. C'est-à-dire que au départ, on s'était aussi dit, on va faire une ou deux représentations, hein, je répète. Et donc, forcément, on s'est dit, on va mettre le max de musiciens. On a mis tous les musiciens avec lesquels on travaille. Et puis, finalement, ça s'est, vu le succès, ça s'est rallongé. Et puis maintenant, finalement, le coût du spectacle en soi, parce qu'on parle aussi d'économie, hein, on n'est pas non plus, c'est une autoproduction. En fait, ça nous permet de pouvoir payer les musiciens, comme on dit, convenablement, les artistes également. Parce que justement, le public est venu en masse. Et c'était important pour nous de mettre en avant les compositions d'Anita. Parce qu'en fait, je pense que les compositions d'Anita, tous ces morceaux sont empreints de... Il y a une certaine nostalgie, beaucoup d'émotions. Je trouve que c'est... Bon, après, c'est le fils qui parle de la
oui,
mère.
Oui, mais attends, moi, je vais te dire comment étaient les lycéens. J'aime bien me mettre autour des lycéens ou des enfants, mm-hmm. enfin, selon les âges, quand bien je vais voir une pièce de théâtre. Ils n'ont pas regardé leur portable de toute la pièce.
Bien sûr.
Et ça, ça finit par devenir rare.
C'est vrai que bah, là, tu parles de ce jeune public. C'est vrai que c'est nous aussi, on a été très, très émus de voir que, en fait, ça touchait autant, enfin, que ça touche toutes les générations. Comme je te disais tout à l'heure, on a énormément de lycéens qui viennent. Donc, on fait des scolaires les après-midi avant de jouer le soir pour le public. Et en fait, il y a des bords plateaux avec eux. Alors, c'est super intéressant parce qu'en fait, eux, ils étudient donc à travers les cours d'espagnol l'histoire d'Amérique latine et donc ce qui s'est passé au Chili. Et c'est vrai que le fait de voir un spectacle et qu'en même temps, les personnes qui sont là ont vécu réellement ce qu'on est en train de raconter, c'est très, très riche dans l'échange. Et ils sont très, très intéressés. C'est magnifique parce que finalement, on se dit des fois, l'Amérique latine, c'est un petit peu loin. Et en fait, non. Ça continue à toucher. Et quand tu disais ce que représentait le Chili, moi, je pense qu'il y a une histoire très particulière avec la France et avec d'autres pays d'Europe également, mais surtout avec la France, par rapport à cette révolution par les urnes, effectivement. C'est quand même... Et ce qui est intéressant, quand tu vois l'histoire du Chili aussi politiquement, c'est quand même un pays un peu fou. Hein. C'est-à-dire que Allende passe par les urnes et Pinochet, on le vire par les urnes aussi, par le plébiscite. Donc, alors... Évidemment, quand je dis on le vire par les urnes, Pinochet, c'est plus insidieux que ça. Il est resté sénateur à vie. C'est encore sa constitution.
Ouais,
enfin, voilà,
ouais,
hein,
ouais.
Je ne vais pas dire qu'on s'en est totalement débarrassé. Mais c'est-à-dire que c'est un pays quand même qui est assez particulier par rapport à cette configuration-là. Et c'est vrai que beaucoup de pays d'Amérique latine et beaucoup de pays d'Europe, parce que nous, c'est ce qu'on raconte dans l'histoire aussi, en 1973, l'année du coup d'État, moi j'avais un an et je suis venu en France avec mes parents dans le cadre d'une tournée qui se faisait à Nancy, qui était le Festival Mondial du Théâtre. C'est Jacques Lang qui faisait ça donc à Nancy à cette époque. Et nous, on est arrivés en France, en fait, avec une partie de la troupe, ma grand-mère, moi, ma mère et mon père, évidemment. Donc il y avait un spectacle qui s'appelait « Il était une fois un roi » qui avait été programmé. Qui avait été en fait sélectionné parce que des gens allaient un peu partout dans le monde pour sélectionner le spectacle de jeunes compagnies. Effectivement, ils avaient un regard très particulier par rapport au Chili de cette époque-là. Donc tout de suite, ils ont sélectionné une pièce du théâtre Aleph. Et comme dit ma mère dans la pièce, jamais on pouvait imaginer, enfin, elle pouvait imaginer que 3 ans après, on allait revenir en France, mais cette fois-ci en qualité de réfugié politique.
Alors, je vais commencer par une pause musicale mm-hmm. du disque de ta mère qui mm-hmm. s'appelle La Banda de la Chirilaca.
La Chirilaca. Si. Alors, juste pour te dire le titre, La Chirilaca, c'est le surnom de ma mère. Donc, c'est un surnom.
J'ignorais.
Et c'est un petit surnom qu'on. Voilà, qui est la Chirilaca. Et la Banda, bon, évidemment, la bande, enfin, la bande de musiciens, on va dire. Donc, c'est la Banda de la Chirilaca. Et ça, c'est un disque qui recompile. Beaucoup, beaucoup de compositions qu'elle a faites pour des documentaires, parce qu'elle a beaucoup travaillé avec Frédéric Lafont et Christophe de Bonfilly. Donc, elle a fait beaucoup de musique pour des documentaires, pour des films et pour des pièces de théâtre. Et donc, c'est ce qu'il y a dans ce disque.
Alors, moi, je l'ai connue dans les musiques de Lelouch avec Pierre Barou.
Tout
et
à fait.
C'est ça que je vais te... Enfin, faire... Toi, tu connais pour les auditeurs. Et moi, je suis vraiment ravie que tu lui aies apporté ce disque.
Oui, enfin c'est un et il y en a plus beaucoup de ce disque. Il y en a plus beaucoup de ce disque là, enfin comme tout est numérisé maintenant. C'est bien d'avoir un CD aussi.
Et là, c'est une version instrumentale.
C'est ça de ça c'est Hasard et coïncidence. Donc c'est un des films de Lelouch effectivement. C'est ça. C'est ça, Pierre, c'était quelqu'un de très important, très très important dans l'histoire artistique du théâtre Aleph, d'Oscar et puis de ma mère surtout, puisqu'il est, surtout parolier, et donc ils ont fait de très très belles chansons. Et d'ailleurs, la dernière chanson du spectacle, la dernière strophe, c'est une chanson de Pierre Barou et Anita Bayrou.
Est-ce que tu peux, Sébastiane, nous résumer un peu la naissance du Théâtre Aleph sans...
Alors oui, tout à fait. En fait, le Théâtre Aleph, on est dans les années... ça commence en 66, en fait. C'est une, en gros, on le raconte un petit peu dans la pièce sous forme d'anecdote, mais c'est une bande de copains, de lycéens, et à l'époque, les établissements scolaires n'étaient pas mixtes, qui voulaient, d'une certaine manière, rencontrer des filles. Ça, c'est, je dirais que c'est un peu l'impulsion. Hein. C'est très anecdotique, mais mon père me l'a raconté, c'est un petit peu la base, en fait, de cette création. Et donc, en gros, il y avait deux lycées face à face. L'Instituto Nacional et le Liceo Uno à Santiago, donc c'est deux lycées qui, un lycée de filles et un lycée de garçons, et donc c'est les garçons qui ont dit bon bah voilà, on aimerait pouvoir, enfin il fallait trouver un prétexte, donc ils se sont dit pourquoi on fait pas une troupe de théâtre mixte qui mêle donc les lycéens de l'Instituto Nacional et les lycéennes du Liceo Uno. Mon père était à l'Instituto Nacional et ma mère était au Liceo Uno, donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et en gros, ils ont commencé à faire du théâtre ensemble, et puis après le côté flirt, l'amour en fait, je dirais adolescent, a fait place à l'amour du théâtre en soi. Et petit à petit, je dirais que la compagnie de théâtre qui a été composée à peu près, je sais pas, ils étaient peut-être 40 ou 60, parce que à la base tout le monde voulait se rencontrer, et puis petit à petit il en est resté que 10. Que 15, voilà, à peu près une quinzaine. Et puis bon, après ils sont tous allés à l'université, ils ont créé ces liens là Et puis, ils ont commencé à créer à faire des créations collectives. À la base, c'était tous des étudiants. Mon père a étudié le journalisme. Ma mère faisait de la musique. Et puis, d'autres faisaient de l'architecture, des mathématiques. Enfin, bref. Et il y avait toujours cette idée de continuer à faire du théâtre. Il ne faut pas oublier que l'époque était totalement effervescente. C'était juste avant l'élection d'Allende. Donc, et pas qu'au Chili. Hein, on parle des années 60, fin des années 60, début des années 70. Il y a vraiment, et en Amérique latine et de manière mondiale, c'est une jeunesse voilà, qui veut mordre la vie à pleines dents et qui veut changer les choses. Voilà,
Il y a eu 68 en France.
C'est ça, cette société sclérosée, etc. Et d'un coup... ils décident d'utiliser le théâtre comme outil, je dirais. Comme je disais tout à l'heure, un outil totalement iconoclaste, parce que donc il y avait Allende allait être porté au pouvoir parce qu'il faisait du théâtre avant qu'Allende soit président, mais eux ils allaient dans les bidonvilles, mais ils faisaient pas du théâtre, je dirais pamphlétaire. Ils allaient là-bas parce que il y avait cette envie justement d'amener la culture un peu partout. Il faut savoir qu'à l'époque le Chili, c'est pas comparable avec les pays d'Europe. Hein. On est vraiment dans un niveau de misère alimentaire, culturel, tout. Donc il y a vraiment cette espèce de jeunesse qui d'un coup se dit non, mais c'est pas possible que dans un pays des gens n'aient rien, que des enfants meurent de faim, parce qu'on en était là. Hein. C'est vraiment ce genre de situation que vivait le Chili à l'époque. Une pauvreté extrême, beaucoup d'oligarques, hein, comme ça c'est l'histoire de l'Amérique latine. Et puis d'un coup, il y a l'élection d'Allende, et puis chez ces universitaires, ce groupe d'universitaires, d'un coup, il y en a certains qui disent « Non, mais on va continuer, on arrête les études, on arrive à la fin des études. » Mon père a eu son diplôme de journaliste, mais à un moment, il y a eu cette bascule où ils ont dit « Non, on veut vraiment commencer à faire du théâtre. » Et je dirais qu'un an ou deux ans avant le coup d'État, ils ont commencé à vraiment officialiser le fait que c'était une troupe de théâtre, de création collective. Il n'y avait pas de chef. Alors ça c'est intéressant dans leur mode de fonctionnement. Ils fonctionnaient à l'unanimité. Et puis d'un coup, il y a une scission à un moment dans le groupe parce que certains ont commencé à faire de la télévision, d'autres voulaient continuer le théâtre. Et puis après la scission, la réelle scission, ça a été le coup d'État. Mon père et ma mère étaient plutôt du côté de la troupe qui voulait continuer à faire du théâtre. C'est pour ça qu'ils ont été invités donc au Festival de Nancy. Ils étaient invités à Cuba aussi juste avant. Je pense que ça a dû jouer peut-être. Les gens ont dû penser pourquoi ils vont à Cuba, alors que bon, ils étaient militants, mais pas en fait, ce qu'ils aimaient, c'est avant tout, c'était l'art. Ils avaient cet engagement, mais parce que je pense que de toute façon, on ne peut pas vivre sans engagement dans la vie.
Ils n'étaient pas dans un parti.
Ils n'étaient pas encartés, quoi. Mmh. Et je pense que ça, c'est important parce que en fait, c'est aussi là, parce que quand dans le discours en fait répressif, souvent on dit ah oui mais c'est des militants politiques, oui c'est des encartés, oui c'est des terroristes, et je pense que c'est important de préciser qu'on peut être engagé sans être encarté, et
tout
parce qu'en fait sinon c'est trop facile, on dit ah bah oui bah évidemment
ils ont vécu la répression parce qu'ils le cherchaient. Tu vois, et donc, non, mes parents étaient vraiment, ils riaient vraiment. Enfin, d'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle Puta que feo el folclore dans le spectacle, et une des chansons, parce qu'ils créaient des chansons aussi, où ils se moquent de Neruda, ils se moquent des ouvriers, enfin, mais gentiment, hein. Mais c'est-à-dire qu'ils avaient cette espèce d'esprit presque fluide glacial, je dirais. Mais ils avaient entre 20 et 25 ans et ils voulaient se moquer de tout. Ils n'étaient pas dans cette idée de se dire non, mais il y a une seule vérité, etc. Il y avait vraiment beaucoup de liberté, beaucoup d'amour, beaucoup de hueveo, comme on dit au Chili. Hueveo, c'est d'amusement, de cette envie de rire de l'autre, de rire de soi-même. Et puis d'un coup, il y a le coup d'État. Et à ce moment-là, évidemment, mon père, il y a toute une histoire qu'on raconte dans le spectacle. Parce qu'en fait, moi, mes parents ne m'ont jamais raconté. Nous, on est arrivés ici en France. Après, on a travaillé avec les femmes. On était accueillis par le Théâtre du Soleil, par Mouchkine. Ensuite, mes parents ont fait leur premier spectacle là-bas, au Soleil, qui s'appelait Exilé Mateluna, l'histoire d'un exilé. Et puis, au fur et à mesure de leur trajectoire, ils ont rencontré Pierre Barou. Donc, il y a eu le Cabaret de la dernière chance. Il y a eu énormément de spectacles. Jusqu'à la création du Théâtre Aleph, donc, où on était là, on a créé ce lieu-là avec lui. Et puis après, nous, on est partis. Enfin, je parle de nous, les enfants. Ma mère et une autre partie de la troupe créer le théâtre El Duende en parallèle, toujours dans la même ville, hein. Donc on a finalement, ça a créé deux théâtres dans la même ville, et donc voilà, on a suivi notre trajectoire. Et en fait, mes parents ne nous ont jamais raconté, à moi et ma sœur, en fait, ce qui s'était réellement passé, les raisons de l'arrestation de mon père, pourquoi mon père, enfin, après, évidemment, mon père a passé 2 ans de camp de concentration comme d'autres artistes, parce qu'il était artiste. Il y a eu des gens disparus, ma grand-mère notamment, et mon oncle Johnny MacLeod, qui était aussi membre du Théâtre Aleph. Ma tante, Marietta Castro, donc, a également été en camp de concentration. Et donc tout ça, on le raconte dans le spectacle. C'est-à-dire, on raconte les raisons de l'arrestation, quand est-ce que c'est arrivé, et ce qui s'est passé. La fin du spectacle, c'est donc le départ en exil. Parce que pour nous, c'était important d'arrêter à ce moment-là. Parce que le reste de l'histoire, finalement, d'une certaine manière, mon père l'a raconté, lui, de son côté. Nous, on ne l'a jamais vraiment raconté en soi, mais il y avait toujours cette idée de métissage dans nos spectacles, dans nos créations collectives, parce que nous aussi, on est une troupe de création collective. Là, en l'occurrence, c'est la première fois que ce n'est pas réellement une création collective, dans le sens où c'est vraiment l'impulsion de ma sœur Andrea, qui, en fait, a ressenti la nécessité de raconter cette histoire pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'elle considérait, et à juste titre, que la place des femmes dans ce type d'histoire, en fait, elle est un petit peu effacée. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les témoignages autour de l'exil, ici, on met beaucoup en avant les hommes. Et voilà, c'est un fait, malheureusement, c'est comme ça. Et les femmes, elles sont toujours derrière, etc. Et pour elle, et je pense qu'elle a eu tout à fait raison, c'était important de mettre ce point de vue qui apporte aussi un autre éclairage, en fait, sur les événements et sur ce début d'exil. Donc, en gros, ça a été assez compliqué, hein, parce que, tu sais, bon, toi, tu as beaucoup insisté aussi pour un moment pour que ma mère puisse venir.
Alors, elle était
venir
très
te voir.
Détendue quand je l'ai vue.
Oui, mais
elle avait envie de venir, oui. Et je sentais qu'elle avait envie, et oui. C'est la première fois qu'elle avait envie
mais
de
ça
venir.
Mais c'est exactement ça, Florence, ça commence tout juste. Je pense que, et c'est ouverte un petit peu dans cette histoire, je pense que la pièce aussi a permis ça, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, elle aimait pas du... enfin, elle voulait pas raconter cette histoire-là, et notamment pas sur scène. Pourquoi ? Parce qu'elle a beaucoup de pudeur, ma maman. Et puis aussi parce que ça ouvre des cicatrices qui sont enfouies, parce que, je veux dire, on sort pas indemne de cette histoire-là. On sort plus fort, mais pas indemne.
Et là, elle était souriante et à visage épanoui, comme je l'avais jamais vue.
Oui, oui, non, mais
parce qu'elle est toujours un peu tendue.
Oui, oui.
Et puis,
Là, elle est très, 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 très heureuse. Elle est très heureuse parce que je pense que aussi la réception du spectacle, en fait, l'accueil, pardon, réception. Je mélange le français et l'espagnol. L'accueil du spectacle a été très, très émouvant pour nous. C'est-à-dire que l'émotion qu'il y a eu dans la salle pendant toutes les représentations,
pleurait.
C'est quelque chose de très, très, très beau à vivre.
Et les lycéens étaient...
Oui.
Scotché, j'ai horreur de ce terme-là, mais ils ne pensaient pas à regarder leur portable, comme j'ai dit tout à l'heure.
Mais non, c'est vrai.
Ouais. Tout le monde était ému, des plus jeunes aux plus anciens, qui ont connu ce tsunami de... du 11 septembre 1973. Mmh. Je vais passer un morceau. Luis Pradenas, c'est le compagnon de ta mère.
C'est le compagnon de ma mère.
Qui est guitariste, qui a écrit un livre.
Archéologie d'un rêve.
Oui, que j'ai même pas pensé à porter. Qui est, parce que évidemment, je l'ai acheté son livre et il raconte l'histoire. Et il est toujours sur scène aux côtés de ta mère en train de jouer de la guitare, ou alors il a un autre instrument, mais c'est principalement la guitare.
C'est des instruments à cordes, donc soit guitare, soit charango. Ou banjo, par exemple. Mais c'est vrai que ça a été très important, le travail qu'a fait Luis Pradenas, parce qu'en fait, ça nous a permis en fait, de récupérer énormément de témoignages, parce que lui, il a fait un vrai travail d'investigation autour de ce qui s'est passé à ce moment-là au Chili avec le Théâtre Aleph. Donc, il y a eu beaucoup de témoignages à l'intérieur de ce livre qui a permis à ma sœur de pouvoir construire sa structure dramatique et passer à l'écriture, plus tout le travail qu'elle a fait avec ma famille, avec ceux qui étaient là, les témoins de l'arrestation de mon père, le 24 novembre 1974, où en fait elle a recontacté une partie de la famille qui était là-bas à ce moment-là, et donc pour reprendre et récupérer leurs témoignages. Donc tout ça, plus les souvenirs d'Anita, compose ce spectacle.
Alors, je te propose, tu vas me dire si tu es d'accord, dans le bonus, une composition qui est à la fois de Luis Pradenas et d'Anita Baliero, Flor de Canela.
Flor de Canela, ouais. Flor de Canela, c'est un très bon choix. Ça a été un film de Frédéric Lafont, donc produit par Arte, qui racontait en fait le retour de mon père au Chili. Et la recherche de sa mère, en fait, portée disparue sous le gouvernement, sous la dictature de Pinochet. Voilà, et ce film s'appelle Fleur de cannelle et c'est la chanson éponyme du film.
On écoute.
Será el amor, flor de canela, chanson.
Flemmardise et réveille-moi, ne trouble pas ma sieste. Réveille-moi avec l'accent circonflexe de rêve. Et là, nous sommes partis au Chili via Ivry-sur-Seine avec Sébastien Castro. D'autres jours viendront, l'exil et la mémoire, et qui raconte l'exil d'une famille chilienne et de ses descendants. J'ai failli te dire Oscar.
Mais pardon. C'est mon deuxième prénom, donc t'inquiète. Nous, on s'appelle tous Oscar, tous les garçons de la famille. Je m'appelle Sébastien Oscar, il y a Cosme. Voilà, c'est comme ça.
Bon, Oscar, il est mort du COVID il y a 3 ans.
Exactement.
Donc, tu en étais où? Est-ce que tu peux reprendre?
En fait, donc, comme je te disais, cette histoire, en fait, elle est intéressante aussi de deux points de vue, parce qu'en fait, tu vois, la troupe qui joue le théâtre Aleph sur scène pendant ce spectacle, c'est donc la troupe du Duende, parce que nous, on est la troupe du Duende. Et la troupe du théâtre El Duende, c'est en fait des copains que j'avais au collège, au lycée. On s'est suivis, ils venaient me voir au théâtre quand je travaillais avec mon papa. Et le virus du théâtre nous a pris aussi. Donc, quelque part, ce que je trouve intéressant dans cette... symboliquement, je dirais, ou même presque, tu vois, c'est-à-dire que d'un côté, tu as ce théâtre Aleph du Chili qui sont cette bande de potes, d'amis, et qui d'un coup, tout ça se brise sous le poids de la dictature et qui finalement n'arrivent pas à aller au bout de leur histoire et de leur rêve, puisque eux-mêmes avaient un théâtre qui s'appelle le théâtre Aleph, hein, c'est-à-dire que ce n'était pas uniquement une troupe. Il y avait toujours cette idée-là qui a toujours porté mon père d'avoir des lieux. Pour lui, c'était très important de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour ses créations. Donc, il y avait toujours cette idée d'investir un lieu et de pouvoir faire ses spectacles à l'intérieur. Donc, au Chili, il y avait le théâtre Aleph, il existait concrètement. Et puis finalement, après tout ça, ça s'est brisé et il y en a très peu qu'on pu continuer à avoir une activité artistique. Mon père a continué ici en France avec ma mère, donc ils ont eu toutes ces trajectoires. Et nous, de notre côté, finalement, peut-être sous l'impulsion de ce que je voyais quand j'étais petit en écoutant les récits de mes parents, parce qu'en fait, quand on est petit, on entend, eux, ils enjolivaient énormément ce qu'ils étaient, cette jeunesse, ce qu'ils faisaient avec le théâtre Aleph au Chili. Enfin, pour moi, quand j'écoutais, je me disais, waouh, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire quand je vais être grand. Et en gros, quelque part, inconsciemment, on a reproduit la même chose. Et nous, finalement, on a justement pas eu à subir ce genre de choses dans ce pays. Parce que ce pays est encore, j'espère, parce qu'on sait que les élections approchent et que l'extrême droite est grandie. Mais pour le moment, c'est quand même un pays de liberté. On a quand même réussi à construire notre lieu, à vivre notre histoire. Et donc, porter cette histoire de cette jeunesse-là, des amis de mes parents, en miroir, c'est quelque chose également de très émouvant. Parce que tu vois, c'est-à-dire que voir que tu travailles avec des... Parce que nous, on est vraiment, enfin, comme je te disais, on est vraiment une... On a des rapports très, très forts au sein de la troupe entre les comédiens et les comédiennes. Il y a un véritable engagement. Donc, me retrouver avec eux, jouer cette histoire, moi, jouer mon oncle, par exemple, et jouer à côté de Louise Beaudurec, qui est donc une des comédiennes de la troupe, qui va jouer le rôle de ma tante, qui est donc Marietta, la sœur d'Oscar. C'est quelque chose de très émouvant parce qu'en fait, ma tante, je me souviens d'elle ici en France. Après, elle est décédée d'un accident de voiture, mais la voir renaître sous les traits d'une comédienne, voir ce qui s'est passé avec Johnny McLeod. Donc ça, c'est très important aussi parce que Johnny McLeod, c'est aussi une figure importante dans l'histoire de ma famille parce que mon père en parlait beaucoup, Marietta aussi, c'était le mari de Marietta, qui est donc porté disparu lui aussi parce qu'ils sont allés voir quand Marietta et Oscar étaient en camp de concentration. Ma grand-mère Julieta et Johnny et ma mère, parce qu'elle le raconte dans la pièce, sont allés les voir. Et en fait, eux sont rentrés. Ma mère était enceinte à l'époque. L'un des soldats lui a dit « Non, non, vous ne rentrez pas les voir. » Elle a dû attendre sur le trottoir. Et eux sont rentrés pour aller les voir, mais ils ne sont jamais ressortis. Et on ne les a jamais retrouvés. Après, on a su qu'ils ont été arrêtés, torturés et portés disparus, puisqu'on n'a pas retrouvé les corps. Mais Johnny, par exemple, c'est Johnny McLeod, c'est un, comme je
dans le panthéon personnel de ma famille, c'est quelqu'un d'important. Mais en même temps, on ne l'a jamais théâtralisé concrètement. Mon père en parlait dans ses pièces de temps en temps comme pour faire un hommage. Et d'un coup, là, il est là, c'est un personnage d'une pièce de théâtre. On le voit, on le voit vivre, il prend corps, il prend chair. Et ça, c'est magnifique de pouvoir le vivre. C'est très émouvant. Et ensuite, l'hommage aussi, parce que cette pièce est aussi un hommage à trois femmes. Donc Julieta Ramírez, qui est donc ma grand-mère portée disparue, la mère d'Oscar et de Marietta, à Marietta MacLeod, Marietta Castro, donc la femme de Johnny MacLeod et donc femme de théâtre également, la sœur d'Oscar, qui a donc également été en camp de concentration, et ma grand-mère, Eliana Irribarren, donc la mère d'Anita, qui est décédée il y a 2 ans maintenant. Et c'est assez intéressant parce que c'est aussi son décès qui a été un petit peu, je dirais, le départ un peu de cette histoire-là aussi, parce qu'en fait, on a découvert après qu'elle avait des cahiers, elle avait 7 cahiers où elle écrivait tout, elle a écrit toute sa vie. Alors ça, c'est une surprise. Enfin, rencontrer ça et voir, le découvrir après, c'est magnifique, c'est merveilleux.
Ah oui, vous ne le saviez pas.
Nous, on ne le savait pas. C'est-à-dire que d'un coup, on récupère tous ces cahiers et puis d'un coup, on retrouve des lettres aussi. Des lettres, les premières lettres qu'a envoyées ma mère, par exemple, quand on est arrivé en France. La première lettre qu'elle a envoyée. Qui est dans le spectacle aussi. Mmh. Donc tout ça, en fait, accumulé, je pense le décès de mon père aussi, hein, ça fait partie de ça. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais porté cette histoire-là. On l'a porté avec lui dans ses pièces en tant que comédien, mais on n'a jamais, nous, en tant que créateurs, on ne s'est jamais dit... et parce qu'on se disait inconsciemment peut-être que c'était son rôle et que nous, voilà, on se disait que ça, il le... Et puis lui, pour lui, c'était très important. Donc c'était sans cesse. C'était vraiment... Il avait ça en tête, c'était une idée fixe. Et donc, d'un coup, il est parti. D'un coup, il y avait les 50 ans de l'anniversaire du coup d'État. D'un coup, il y avait ses cahiers. D'un coup, il y avait cette envie de ma sœur. Mais vraiment, très, très, très importante, cette nécessité de raconter donc, cette histoire. Il y a une photo, en fait, qui est aussi la base de tout. C'est la photo dans laquelle on monte dans l'avion, tous les quatre. Alors, il faut savoir, ça, c'est intéressant, parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent, mais en fait, ces photos, comment ça se fait que vous les avez? Parce que c'est vrai qu'une photo de départ, comme ça,
oui,
en avion...
C'est
particulier, tu vois.
Ton père tient ta petite sœur dans les bras et puis toi, tu donnes la main à ta mère.
Ça, c'est la photo de l'affiche et il y en a une autre, c'est la photo où on monte dans l'avion. Et en fait, ce que j'ai appris après, parce que moi, au départ, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un de la famille qui l'a prise pour garder ça comme un souvenir. En fait, non, c'est je dirais la dictature chilienne, parce que je ne vais pas dire gouvernement, la junte chilienne, en fait, ils prenaient en photo les exilés, ceux qui partaient, pour ensuite ne pas avoir à subir le fait de dire « en fait, il y a des gens qui ont disparu, quoi que ce soit ». Il y avait une preuve photographique qu'on était vraiment parti du pays. Mais le pire, dans le cynisme de ces personnes-là, c'est que ces photos, figure-toi, ils les vendaient ensuite aux familles qui restaient sur place, donc les familles séparées, et ils les vendaient. Tu vois, donc, là, tu vois le cynisme absolu
C'est
sordide, hein, on est d'accord. Donc, en fait, ces photos-là, elles existaient, elles étaient dans ma famille, et on les a, et ma sœur aussi, à travers cette photo, elle s'est dit, mais moi, je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux vraiment connaître la... Et puis, en fait, après, ce qui est hyper intéressant aussi, je dirais, et ça, c'est moi l'idée de dramaturgique qu'a eu ma sœur, qui a l'air de rien, mais qui ouvre aussi le récit, c'est d'impliquer Alma, donc ma nièce, Alma Kerwani, dans
la
cette histoire-là.
La fille de ta sœur.
La fille de ma sœur. Et ça, je pense que c'est là, et pour moi, c'est je pense que c'est la bascule et le point important de ce récit. C'est-à-dire que d'un coup, ce n'est pas juste nous, une représentation, nous, en tant que cette génération d'enfants d'exilés qui prenons un petit peu le flambeau de la mémoire en mettant en avant les souvenirs de notre mère, mais c'est la transmission d'une mère à sa petite fille. Donc ça passe ces 3 générations. Et je pense que la question de la transmission, c'est surtout là. C'est-à-dire que les enfants, évidemment, ils sont plus à même de connaître certaines parties parce qu'on ne leur raconte pas tout quand il se passe ce genre de choses. Et souvent, les petits-enfants, bah, ils connaissent un petit peu moins. Il y a mon fils qui travaille dans la pièce également. Lui, il est musicien, il est percussionniste. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai essayé de lui expliquer à Ruben ce qui s'était passé. Et donc, il le comprenait, mais à sa manière. Mais là, c'est complètement différent. Le fait d'avoir participé au spectacle, le fait d'avoir vu les répétitions, le fait d'avoir vu tout ça, il a compris beaucoup plus. Et donc là, on est déjà dans cette base-là. J'ai beaucoup d'amis qui viennent de ma génération, donc qui sont des enfants de Chiliens exilés et qui ont refait leur vie ici avec... des femmes françaises, on va dire. C'est ça, dans ce sens-là, quand je dis ça, c'est juste que, évidemment, c'est l'histoire de la France, on se mélange, les gens se mélangent. Et puis d'un coup, il y a des petits-enfants qui naissent aussi. Et ces petits-enfants, ils sont franco-chiliens, mais ils ne connaissent pas forcément l'histoire des grands-parents. Et donc ça, ça a été très, très fort aussi. Ils sont venus en famille, tu vois. Et d'un coup, voilà, il y a cette histoire d'un coup, quand ils disent, ah oui, d'accord, en fait, alors grand-père ou grand-mère, ils sont venus à cause de ça, c'est ça qui s'est passé. Et donc cette pièce de théâtre, elle a aussi cette mission de pouvoir aussi faire ce travail de transmission, tu vois. Notamment, par exemple, il y a quelque chose de très beau aussi. Il y a ma cousine chilienne qui donc maintenant est venue vivre au Portugal avec sa famille, tu vois. Donc elle est pas loin. Et à un moment, elle me dit non, mais elle a vu le spectacle, donc ça c'était très très émouvant parce qu'elle a vu la première, et ça c'était très fort parce que on est de la même génération, mais c'est pareil, elle de son côté là-bas au Chili, on lui racontait pas trop l'histoire non plus, et savait qu'il y avait ses deux cousins qui étaient en France et on se voyait pas, on s'était vu parce qu'on était allé en tournée là-bas, enfin tu vois, on avait renoué les liens, enfin je veux dire, on avait recréé quelque chose, mais il y avait toujours ces fils rompus, tu vois, et d'un coup, elle voit le spectacle. Et ça a été là, pour le coup, très émouvant. Parce que d'un coup, elle a vu son histoire, notre histoire. Et là, pour le coup, la catharsis, elle a fonctionné de plein fouet. Et elle m'a dit juste après, elle m'a dit, il faut que j'amène mes enfants. Il faut que j'amène mes enfants
voir
ce spectacle.
Alors, à partir de quel âge? Parce que moi, j'ai bien envie d'emmener mon petit-fils.
Alors,
qui a quand
moi,
même aussi une racine chilienne.
Je pense que, tu vois, on a eu des... Moi, je pense qu'à partir de, on va dire, 7-8 ans, je pense.
Eh ouais.
Alors, c'est très jeune, hein, mais
c'est-à-dire
que c'est quand même un super goût. Il y a de la musique. Alors c'est vrai qu'après il faut une préparation. Il y a pas, il y a, ça chante beaucoup. C'est très, voilà, il y a beaucoup de joie dans ce spectacle. Hein. Et ça c'est important aussi. Il y a la joie. C'est-à-dire que nous on a eu l'opportunité d'avoir Carmen Castillo dans notre public la semaine dernière. Carmen, qui est une documentariste exceptionnelle, qui est une femme de combat aussi. Et ce qu'elle a beaucoup aimé dans le spectacle, dans son retour, c'était, en fait, on montre la joie que c'était ce moment-là. Parce qu'il y a toujours cette idée de se dire, voilà, on est victime, et une victime, c'est quelqu'un de gris, c'est quelqu'un de dur, c'est quelqu'un d'amer, tu vois. Et non, c'était... Et donc, à un moment, c'est cette idée de se dire qu'il y avait que de la joie au départ, là-dedans. Et qu'ensuite, c'est comme... C'est pour ça qu'il y a cette métaphore de fête. Il y a une fête dans une maison et cette fête, elle est gâchée par l'arrivée des militaires. C'est la métaphore du spectacle. C'est la métaphore de ce qui s'est passé au Chili. Enfin, gâchée, c'est plus que gâchée. Hein. Elle est interrompue. Et la fête, elle a été interrompue pendant longtemps, jusqu'au retour de la démocratie, on va dire en 89. Donc, c'était 17 ans de dictature. Mes parents, au départ, ils pensaient partir un an. Moi, par exemple, ma sœur est arrivée avec la scène de une des dernières scènes du spectacle où on met en scène le départ, c'est-à-dire le moment où on se sépare, où cette famille, nous en fait, en l'occurrence, on partait en France. Dans ma tête, je me disais, ah, ça a dû être un moment hyper, hyper douloureux, hyper. Et en fait, non. Après, ma mère me racontait que pour elle, évidemment qu'il y avait de l'émotion de partir, mais il partait pour un an. Tu vois, c'est-à-dire que ma mère, dans sa tête, c'était, on part dans un an, on revient. C'est-à-dire qu'on va là-bas, on se met à l'abri, on attend que les choses se calment et dans un an, on revient. Ça a été 17 ans de dictature. Ma mère, elle a vécu plus de temps ici, en France, qu'au Chili. Il y a un texte très beau où elle dit qu'elle ne se sent pas française, mais qu'elle ne se sent pas chilienne non plus, qu'elle n'a pas de pays, qu'elle est dépaysée, mais bien enracinée. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est ça qu'on porte, en fait, quand on est, je pense, déraciné. On n'est pas déraciné parce qu'on choisit d'être déraciné. Je pense que on est déraciné par des événements historiques, par des besoins aussi, parce qu'il y a des moments où tu es obligé de partir de ton pays parce que tu peux plus vivre dans ce pays-là, que ça soit politiquement ou économiquement. Mais c'est toujours une déchirure. C'est pas, on ne part pas de son pays.
En même temps, on n'est pas des arbres et on a deux pieds pour marcher, pour se déplacer.
Exactement, aussi. C'est vrai, ça c'est important.
Donc ça fait partie de la substance humaine,
exactement.
De pouvoir se déplacer.
Ça fait partie de la conscience humaine.
Il y a une pièce qui était très festive que j'ai vue et là qui est sur le disque, le cabaret de la dernière chance,
oui.
co-composé écrit par Pierre Barou, Anita Baliejo et Charial. C'est qui, Pierre Charial?
Ah, mais je pense que là ça doit être la version Orgue de Barbarie.
Ah oui, d'accord.
Tu vois, et ça, c'est, en fait, c'était très, c'était symbolique de le mettre dans le disque, cette version-là, parce que, tu vois, ça, c'est une mélodie de ma mère, donc chilienne, qui fait de la musique. Elle a quand même composé le dernier morceau enregistré par Yves Montand, c'est pas rien. Le Cabaret de la Chance, c'est le dernier morceau qu'il a enregistré, c'est celui-là, c'est une musique d'Anita Vallejo. Et dans le disque, c'était important de mettre, parce que l'orgue de Barbarie, c'est quelque chose de tellement français,
d'accord,
tellement,
oui, voilà.
Tu vois.
Bon, bah, on va l'écouter.
Voilà,
là.
Donc c'est pour ça qu'il est sur le disque. C'est beaucoup plus tard, j'ai vu en analysant, en discutant avec lui, cette histoire de la comète qui tombe, qui est donc la métaphore du gouvernement d'Allende qui tombe aussi. Donc, dans toutes ces pièces, il y avait cette idée de toujours mettre à un moment cet événement tragique en fait, qui a marqué notre famille et, les familles, et la famille de nombreux Chiliens.
Alors, c'est une... Une troupe qui est quand même assez particulière, qui y a un vent libertaire qui...
Oui.
qui est
on
ne
va
évident.
Pas dire le contraire. Oui, oui, non, mais c'est vrai, oui. Oui. Dans notre fonctionnement.
Alors, raconte un petit peu comment vous fonctionnez, parce que ça fait quand même très longtemps que... C'était avant le Covid, tout ça, quand
c'est
tu
ça.
Es venu.
Bah, écoute, c'est vraiment... Moi, je pense que comme tu parlais de racines et de marche, qu'on n'est pas des arbres, tu as raison. L'utopie, c'est aussi quelque chose où on marche vers une utopie. On marche, c'est un point. C'est Galliano qui disait ça, qui préférait l'utopie parce que c'est l'horizon, ça permet d'avancer. Et pour moi, je pense que effectivement, ce qu'on a créé avec le Duende, c'est ça. Pour moi, il y a un côté un petit peu utopique dans le sens où c'est des personnes quand même qui travaillent ensemble depuis maintenant plus de 30 ans, qui ont décidé de se construire un avenir commun à travers l'art. D'avoir cette liberté de travailler en collectif. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout le... Tu vois, par exemple, autant au Théâtre Aleph, mon père, c'était vraiment le directeur du Théâtre Aleph et c'était sa vision des choses. Et moi, je la respecte parce que c'est sa proposition et son mode de fonctionnement.
Ouais, j'y suis allée une fois, il y a très longtemps.
Voilà.
Dans ton père, ouais, j'ai vu une pièce.
C'est directeur, metteur en scène, c'était comme ça. Et c'est chef de troupe, tu vois. Et nous, au contraire, on s'est dit non, on veut pas de chef, en fait. On veut créer cette dynamique collective, justement, où on va prendre les décisions ensemble, où chacun va se mettre au service d'eux. C'est-à-dire, alors, évidemment, on est des êtres humains, donc il y a des moments, il peut y avoir des aspérités, mais en fait, elles sont complètement gommées par rapport à, je dirais, l'importance du projet. Et le projet, c'est pas celui de Macron, hein. C'est vraiment d'avoir un lieu autonome. Parce que c'était ça, c'est d'abord construire un lieu,
oui,
donc le théâtre Edouard.
Je l'ai vu débuter. J'ai des amis à Ivry qui m'ont amené là en disant regarde.
Ouais. C'était ça, c'est-à-dire que d'un coup on s'est retrouvé, on s'est dit on a trouvé un entrepôt, on va le transformer en salle de spectacle. On a d'ailleurs créé un spectacle qui s'appelle Fabrique de rêves qui raconte en fait parce qu'on a eu des aventures.
Je l'ai vu.
Voilà, des aventures et des mésaventures assez cocasses, mais finalement on a réussi à construire le lieu. Et 10 ans après, on a réussi à l'acheter. Aussi, ça c'est très important. On est une coopérative. Attention, on l'a acheté. C'est la coopérative qui est donc qui possède le lieu. Mais l'esprit de la coopérative, c'est lié aussi à cet esprit de je dirais, où on partage les choses, on partage l'outil de travail. On a tous des postes à l'intérieur de notre mode de fonctionnement où on est autant sur scène qu'en dehors de la scène, c'est-à-dire on tourne,
oui.
On va nettoyer la salle, on va faire le bar, on va... Alors ça, tu peux le retrouver aussi au Théâtre du Soleil, dans d'autres lieux. Il y a cette idée de compagnonnage. Mais pour moi, c'est... Enfin, je veux dire, moi, je ne peux pas concevoir le théâtre et arriver dans un lieu, aller dans des loges, me maquiller et aller jouer. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Moi, si je vais, c'est pour moi, mon métier, c'est d'ouvrir un lieu, me mettre là, préparer les tables, nettoyer un, me passer un coup de balai. Tu vois, c'est un peu étrange, hein. Mais tout ça me permet après d'aller mieux, d'être mieux sur scène. Parce qu'il y a toujours cette idée de se dire que les gens, on les accueille chez, enfin, tu les accueilles dans une maison, dans un lieu. Et pour moi, l'idée de maison, je pense que c'est lié aussi à notre parcours et à l'exil, du fait de trouver quelque chose, une maison, un endroit où on va se réfugier. Mais cette maison, on va peut-être utiliser un mot religieux, mais tu vois, quand je dis temple, c'est dans ce sens-là où y a vraiment ce côté ouvert, où les gens vont venir, vont partager des idées, vont recevoir des choses, où on est tous égal les uns les autres, parce qu'on va vivre un moment ensemble. À un moment, on va partager quelque chose, une histoire. Et donc le théâtre, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ouvrir des portes et recevoir des gens qui vont venir et à qui tu vas partager une histoire, tu vas partager un verre de vin, parce que les gens peuvent rester, boire un verre de vin, manger quelque chose, discuter. Et tout ça, ça s'est créé parce qu'on a eu ce besoin de se dire, on va vivre cette utopie. On disparaît aussi, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a aussi nos velléités artistiques où aussi on veut à un moment se mettre, c'est normal parce qu'il y a toujours l'ego des artistes, mais nous, on n'a pas j'ai la sensation qu'il n'y a pas ça au Duende, c'est-à-dire que on se met vraiment au service de l'œuvre, tu vois, et de se dire que ça fait des années que c'est la même compagnie avec des gens qui arrivent aussi, parce que l'idée, c'est pas de se scléroser, tu vois, ça c'est très important, c'est pas...
Oui, il y a des nouvelles personnes,
qui arrivent régulièrement, ouais. On forme des gens, tu vois.
Alors, vous faites une école, j'ai une amie qui a été pendant des années dans votre école.
Exactement, oui, je sais.
Et puis, ces enfants tout petits, je me rappelle les avoir vus sur scène, ils avaient 5-6 ans, c'était quand même
étonnant. Donc, tu as une école de théâtre de pratique amateur, et puis on a à peu près une 150aine d'élèves, et tu as une école de théâtre de formation professionnelle où là c'est plutôt 6 ou 7 personnes qui viennent et qui nous suivent sur 2 ans et qu'on forme sur le terrain et qui ensuite on arrive à les intégrer dans parce que c'est pas rien ça de se dire qu'à un moment ils vont devenir intermittents grâce à la formation qu'on leur donne ou grâce aux possibilités qu'on leur offre par nos réseaux. Et donc ça c'est précieux, tu vois, c'est-à-dire qu'on se... Et c'est pour ça aussi que notre lieu est un lieu de diffusion aussi, et je répète, avec des jeunes compagnies émergentes. Pourquoi les jeunes compagnies émergentes? Parce qu'on est, comme dans tous les milieux, il y a toujours cette histoire économique qui prime, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que tout a un coût. Et donc, pour les compagnies émergentes, c'est très compliqué de trouver un lieu avec un plateau suffisamment grand où on va leur donner des heures de répétition ou des résidences pour qu'ils aillent au bout de leur projet, qu'on ne leur fasse pas payer une blinde, une location de salle, mais qu'on puisse imaginer qu'on va, d'une certaine manière, les accompagner en leur proposant un partage de recettes sans minimum garantie, parce que souvent, dans des lieux, tu payes... Alors évidemment, l'économie du théâtre est fragile. Hein. Je ne suis pas en train de dire... nous, on n'est pas subventionné, par exemple, au fonctionnement. On est subventionné sur les projets. Mais pour nous, c'est tellement important de se dire que, d'un coup, il y a des projets qui naissent chez nous, qui continuent. Il y a des compagnies qu'on a... Ça fait 10 ans que le Duende existe, qu'on a vu grandir et qui maintenant font des scènes nationales, tu vois, et qui, s'ils n'étaient pas passés par chez nous, peut-être qu'ils n'auraient pas eu cette occasion-là. Il y a un festival qui s'appelle le festival Trait d'Union qu'on co-organise avec une compagnie qui s'appelle Les Antichets. On co-organise ça au mois de janvier, enfin tous les mois de janvier. On fait du théâtre, un autre festival qui s'appelle Les Rencontres à part entière autour de la question du handicap, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est important dans le sens où quid des personnes porteurs de handicap qui veulent faire notre métier, tu vois, comment on les considère. Est-ce que tu vas voir un artiste ou tu vas voir un artiste qui est handicapé? Ou alors, et je pourrais dire la même chose disant, est-ce que tu vas voir un artiste ou un artiste chimien?
Il y a un côté voyeurisme quand on va voir.
C'est ça, tu vois. Mais bah justement, l'idée, c'est de casser ça, c'est de se dire que tu vas voir un spectacle, point barre, quoi. Ouais. Et que le spectacle, il te provoque des émotions ou qu'il ne t'en provoque pas. Et ça, c'est très important dans notre implication, tu vois. Donc, effectivement, il y a tout ça et il y a cette idée de partage. Nous, on reçoit financièrement la manière dont on fonctionne. On a tous le même salaire, tu vois, tous au sein de la troupe. Et ça, c'est très important, cette question d'égalité, parce que pour nous, il y a une part qui va à l'outil. Parce qu'en fait, on a cet outil, mais cet outil, il a un coût. Et si on veut continuer à le choyer et pour qu'il nous permette de raconter des histoires, eh ben, il faut que notre énergie, une bonne part de notre énergie qui va dans le lieu, et l'autre part, évidemment, il faut vivre, hein, évidemment. Mais moi, si je le dis librement aussi, parce que c'est aussi un mode de fonctionnement qui n'est pas banal.
Non, qui est banal. Libertaire.
Exactement. C'est de se dire, on est ensemble, on est sur le même bateau, on partage les tâches, on partage le salaire, et puis on avance.
C'est pas anecdotique que tu sois Radio Liberté.
Mais c'est pas du tout anecdotique, Florence, qu'on soit là et qu'on se connaisse depuis aussi longtemps. Non, c'est vrai. Il y a cet esprit-là, ouais, effectivement. Et on n'est pas encarté non plus, tu vois. Donc, il y a aussi ça. C'est-à-dire que nous, on a cette liberté-là. Mmh. Alors, évidemment, on est plutôt, on va dire, du côté des idées de gauche. Mais en même temps, on a notre libre arbitre. Et surtout, on fonctionne.
Surtout que la gauche, ça ne veut plus dire grand-chose actuellement. Veut... Moi, je ne prononce plus trop ce mot-là.
C'est ça.
Eh bien, on va... C'est toi qui m'as parlé d'abricots. Oui. Ce n'est pas la saison, mais on va avoir l'eau à la bouche avec les abricots. C'était en 1998, issu de Massoud l'Afghan.
Massoud l'Afghan, de Pomphili. C'est un documentaire de Christophe Pomphili, qui est un documentaire magnifique. Et donc Anita fait la musique. Et abricots, tu retrouves ce thème-là dans le spectacle également.
Alors, on écoute. Alors, pendant la musique, je me remémorais un spectacle que j'avais vu non pas au Duende, mais à l'Alep. Alef, on dit Alef.
Théâtre Alef, oui.
Une pièce qui était de ton père, où, pour résumer, les gens qui avaient été torturés, arrêtés, se retrouvaient dans la rue, en voisinage, au travail, à côté. ouais. de leurs anciens tortionnaires. C'est et vrai. Ça, c'est insupportable. Ça,
c'est, en fait, c'est là la l'importance du travail de mémoire par rapport à cette histoire chilienne. C'est-à-dire que, quand je te disais tout à l'heure qu'un de mes rêves, ça serait de pouvoir retourner au Chili avec ce spectacle, c'est parce qu'en fait, il y a un réel besoin. Parce qu'en fait, c'est une histoire qui n'est pas assumée. Alors, comme plein d'histoires qui ne sont pas assumées. Hein. On pourrait mettre en parallèle la guerre d'Algérie aussi. Toutes ces questions-là, elles résonnent encore jusqu'à présent en France. Donc là, en l'occurrence, effectivement, il y a... En fait, il faut bien comprendre que moi, j'avais une vision très idéaliste quand j'étais môme, en tant qu'enfant d'exilé, par rapport à ce qui se passait au Chili. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple cinématographique, pour moi... Pinochet c'était Dark Vador et tout le monde était dans la résistance, tu vois. Et en fait non, pas du tout. En allant là-bas, je me suis rendu compte que pas du tout. En fait, il y a une partie des Chiliens et des Chiliennes qui ont appuyé le coup d'État, et une bonne partie. Certains n'ont rien dit, mais il y a toujours une masse qui. Et après bon, on peut comprendre aussi.
Il y a de quoi avoir peur.
Exactement.
Il y a
de quoi avoir peur, évidemment.
Peur de la torture.
Mais totalement. Mais en dehors d'avoir peur de la torture, il y a des gens qui ont appuyé, qui ont sorti les bouteilles de champagne quand Allende est tombé. Et pas que des gens... et puis des gens dans ma famille aussi. C'est ça que le point qui est important. C'est-à-dire que quand, dans la pièce de mon père, on parlait de ces personnes qui côtoyaient les tortionnaires, tout ça, ça se passe aussi dans son propre noyau familial. Je sais qu'il y a une partie de ma famille, par exemple, qui a appuyé du côté de mon père, tout ce qu'a vécu mon père, imagine, qui a appuyé le coup d'État. Ils ont appuyé le coup d'État et ils étaient très contents parce que pour eux, Allende, c'était le communisme et que c'était... ça déstabilisait. En fait, ils ne voyaient pas tout le côté, le blocus, la CIA. Enfin, ça leur passait au-dessus de la tête. Hein. Pour eux, ils voyaient le truc un peu concret en train de se dire, bah non, maintenant, il y a de l'ordre, tu vois. Et puis aussi, il y a des gens, il ne faut pas oublier que le Chili, ça a été aussi le laboratoire du néolibéralisme avec les Chicago Boys.
Oui, tout à fait.
Donc, d'un coup, il y a quand même une bonne partie de la population qui, en fait, a très bien vécu les années de la dictature, ils se sont enrichis. Et donc, ensuite, quand tout ce qui se passe par rapport aux droits de l'homme, toutes les tortures qu'il y a eu, toutes les exécutions, toutes les disparitions comme ça, ça commence à ressortir un petit peu, y a plein de gens qui sont gênés. Et puis, il y a plein de gens qui ne veulent pas... tu sais, juste pour te donner un exemple, on a joué, il y a deux semaines, c'était la première semaine d'exploitation, on reçoit un lycée. On joue le spectacle et d'un coup on discute avec les lycéens et là il y a une jeune fille qui n'était pas lycéenne donc qui était là et qui en fait travaillait avec la prof d'espagnol, donc c'était une étudiante chilienne, tu vois, elle devait avoir 25 ans à peu près, et d'un coup on commence à parler et puis elle dit, mais parce que je ce que je suis en train de te dire là je le dis aux élèves aussi, je dis voilà, il faut pas être faut pas avoir cette image de ce qui se passe là-bas, en fait, en imaginant que tout le monde est contre la dictature. Et elle, d'un moment, elle lève la main et dit, bon, ben voilà, moi, en gros, moi, j'étais dans un lycée militaire. Parce que, bon, voilà, c'est l'Amérique latine, c'est ça, t'as des lycées militaires, t'as ce genre de choses. C'est beaucoup plus... Il y en a beaucoup plus qu'ici, je dirais, ce genre de choses. Et dis-moi, en histoire, on n'a jamais étudié le coup d'État. Et après, elle m'a dit, il a fallu attendre l'université pour que d'un coup, je sache ce qui s'est passé dans mon propre pays. 25 ans. Elle a 25 ans quand elle te dit ça. Donc, en fait, quand elle est au lycée, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. C'est peut-être moins, il y a 10 ans, on va dire. L'université, c'est... Enfin, tu vois, donc en fait, là, d'un coup, dans cette discussion, il y a quelque chose de concret. Il y a pas quelque... Je ne suis pas en train d'inventer, d'extrapoler, de paranoïa, une sorte de paranoïa d'enfant d'exilé. Non, il y a... malheureusement, il y a cette question-là. On ne veut pas en parler. Tu vois, ça gêne. Alors, ça gêne de différentes manières, je pense. Ça gêne parce que ça provoque beaucoup de douleur. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas cette douleur, qu'ils étaient impliqués ou pas, mais qui préfèrent ne pas en parler. Parce qu'en fait, ça les remue trop. Et ça, je peux respecter. Je suis pas... Tu vois, l'idée,
mais même
c'est
chez
pas...
les exilés, il y en a qui n'en parlent pas. Ou
tu
très
sais,
peu.
On a dans le spectacle... Alors, tu vois, étrangement... moi, j'imaginais qu'on allait avoir beaucoup de Chiliens ou d'enfants des Chiliens, mais on en a eu très peu dans notre public, étrangement. On commence à en avoir un petit peu maintenant parce que le spectacle commence comme il a bien fonctionné, les gens en parlent énormément. Mais tu vois, on n'a pas eu... moi, je pensais vraiment qu'il y avait cette implication. On a eu beaucoup plus de gens de notre public ou de... Voilà, de public lambda ou des gens qui ont cette fibre en train de se dire tiens, moi ça m'intéresse de voir ce spectacle. Mais donc ça veut bien dire quelque chose. Il y a des gens qui réagissent très bien, qui sont très très touchés par le spectacle, et d'autres, étrangement, ils vont pas forcément te dire, même des gens qui ont vécu, des amis de mon père, qui vont pas forcément vouloir trop parler dessus, tu vois. Parce que je pense qu'il y a des choses très personnelles, très privées, ça ouvre des traumas, ça ouvre des choses, donc forcément. Mais. Je pense que le devoir de mémoire pour nous maintenant, avec ce spectacle-là, justement, c'est de retourner là-bas et justement de pouvoir montrer que cette histoire a existé. Il faut montrer que les histoires ont existé. Il faut montrer qu'il y a eu des morts. Il faut montrer qu'il y a eu une brutalité sans précédent.
Et puis, il faut montrer aussi, je me rappelle avoir vu un film documentaire, il n'y a pas si longtemps que ça, qui parlait du Chili à un moment, où je crois que c'était Pompidou. Le président en France, c'était bien Pompidou,
oui, c'est ça, oui.
Qui disait, il avait mis un extrait, ça ne pouvait pas fonctionner, mais sans expliquer qu'il y avait la CIA derrière. Mmh. Alors ça, c'est très pervers parce que ça ne pouvait pas fonctionner parce que c'était sans chef, parce que c'était une utopie en cours de route, parce qu'elle n'était pas réalisée, cette utopie. Et puis maintenant, on n'est pas non plus en démocratie, hein, c'est le moins qu'on puisse
dire.
Alors, c'est un mot qu'on emploie pour dire un régime qui n'est pas une dictature féroce militaire, mais en fait, c'est quand même pas une démocratie. Et ce film ne disait pas pourquoi ça ne pouvait pas marcher. Et ça, je trouve que c'est d'une malhonnêteté.
Ah, mais complètement.
Quand Pompidou a dit ça ne pouvait pas marcher, il n'a pas dit parce que il y a eu la CIA, etc.
Moi, je pense que j'ai vu le même documentaire dont tu parles. Si je ne me trompe pas, c'est un documentaire autour de ce qu'ont fait les deux Mentons, qui étaient les ambassadeurs français au Chili à ce moment-là. Françoise de Menton et Pierre de Menton. Je sais que c'est un documentaire qui est passé sur France 3, il me semble.
Parce mais je n'ai pas la télé, donc je l'ai vu dans un circuit alternatif.
Ah, mais
tu as
dû le voir dans un circuit alternatif. Mais effectivement, il y a un moment où on voit Pompidou dire ça.
Ouais.
Et c'est vrai que, par exemple, tu vois, Pierre et François de Menton, parce que moi, je connais bien leur petit-fils. Tu vois, donc ça, c'est intéressant. C'est les rivières souterraines, comme disait Pierre Barou, des gens qu'on rencontre d'un moment, qui voient... puis d'un coup, on voit qu'il y a des histoires communes. Eux, c'est de la droite gaulliste, tu vois. Eux, c'est des gens qui ont été donc de droite, mais résistants. Et quand ils ont été là-bas, il faut savoir qu'à un moment, ils ont ouvert l'ambassade. Sans l'appui de la France, à un moment, Pompidou disait non, attendez. D'ailleurs, à un moment, ils leur ont interdit. Mais ils ont sauvé énormément de gens. Pourquoi ? Parce que quelque part, dans ce qui se passait, parce qu'il y a un bouquin qui s'appelle Les Carnets de Françoise où elle explique tout
oui,
ça, c'est des gens
c'est
très religieux.
Oui, c'est ça que j'ai vu, Les Carnets de
Françoise. Et tu vois, ces personnes-là, en fait, dans leur manière de... Ils avaient encore en souvenir la résistance contre les Allemands et les nazis. Et ils ont fait un parallèle tout de suite de ce qui était en train de se passer. C'est des gens qui se sont engagés en n'étant pas du tout du même bord politique, mais qui avaient, par exemple, beaucoup de respect pour Allende, ils le disent dans le bouquin, dans le documentaire, beaucoup de respect pour Neruda, tu vois, qui étaient quand même c'est des communistes, hein. Mais néanmoins, Allende, tu vois, c'est ça aussi qui est important. Allende, il était légaliste en soi, c'est-à-dire qu'il a gagné les élections par les urnes, et je crois qu'il a gagné les législatives juste avant qu'il y ait le coup d'État. Et ceux qui n'étaient pas légalistes, clairement, c'est les autres. Et même la démocratie chrétienne, qui est le centre-gauche, centre-droite, qui ont appuyé le coup d'État en pensant que les militaires allaient leur rendre l'appareil, tu vois, en disant, ils se sont dit, OK, dans un an, on récupère le pouvoir, et Pinochet ne l'a pas rendu. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de... il y a beaucoup de responsabilités aussi. S'ils sont arrivés au pouvoir, il y a la CIA, il y a aussi le mode de fonctionnement qu'il y avait à ce moment-là, parce que les gens ne voulaient pas que ça marche, aussi. Parce qu'évidemment, c'était plus facile à l'époque de dire « Ah bah, ils vont créer un deuxième Cuba ». Mais quoi, enfin, je veux dire, c'est pas du tout la même histoire. C'est pas du tout le même. Et tout ça, c'est compliqué, tu vois. Parce que, par exemple, quand on en parle même maintenant avec des Chiliens de ma génération, ou des plus jeunes, il y en a beaucoup qui veulent pas rentrer en discussion parce qu'ils disent « Ouais, mais c'est des communistes ». Là, tu dis ça et t'as fini la conversation.
Oui, ou alors
fini la
c'est le MIR. Voilà,
ouais, c'est le MIR.
Voilà, c'est le MIR.
Et
mais
donc, là,
vous n'étiez pas le MIR, vous,
voilà,
les
non
Castro.
Plus. Bah non, ma grand-mère, par exemple, portait disparue. Tu vois, ça, c'est important. Elle était de droite. On le dit dans le spectacle à un moment quand Oscar dit et Marietta disent nos parents sont de droite. C'est-à-dire que eux, et d'ailleurs, ça a créé un problème, parce que justement, comme il y avait une partie de la famille de mon papa qui était, c'était des curés ou des militaires aussi, ils ont tout fait pour sortir ma grand-mère, tu vois. Et en fait, dans l'histoire, concrètement, ce qui s'est passé, le drame de ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère, ils l'ont mis en maison de torture, elle a été emprisonnée, je pense torturée aussi. Sauf qu'à un moment, ils se sont rendus compte qu'elle n'avait rien à faire là. C'est une dame âgée, hein, tu vois. Il faut savoir que la moyenne d'âge, ils avaient entre 20 et 25 ans, les prisonniers. C'était vraiment cette jeunesse-là. Et elle, ma grand-mère, je pense qu'elle devait avoir entre 60 et 70 ans. Et en gros, à un moment, ils vont la libérer. Ça, on l'a su après, par le procès et tout ça. Sauf qu'au moment où ils la libèrent, ma grand-mère a dit « Non, mais vous me rendez mes bijoux. » Parce qu'en fait, au moment où ils l'ont enfermée, ils lui ont tout pris, tu vois. Et là, les militaires font « Non, on ne va pas les rendre. Si elle a incité, vous allez me rendre mes bijoux. » C'était pas des bijoux, voilà, c'était pas ma grand-mère, c'était pas une grande bourgeoise, hein, tu vois. C'était c'était des agriculteurs, voilà, mais elle avait ce côté, voilà, tu vois. Et c'est à cause de ça qu'elle a disparu, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont volé les bijoux et qu'ils n'ont pas voulu assumer qu'ils les avaient volés, et que c'était plus facile de la faire disparaître. Donc c'est complètement fou, cette histoire, tu vois. Et ça, je l'ai su. Tout ça, c'est des choses qu'on a su au compte-gouttes petit à petit, parce qu'il y a des procès qui ont été faits au Chili. Des procès justement pour rendre justice à ma grand-mère et à mon oncle Johnny MacLeod, des procès qu'a initié mon père. Et petit à petit, on a appris des choses. Et ça, par exemple, c'est quelque chose de... Oui, c'est dramatique, c'est, voilà, c'est tragédie, mais absolue, tu vois. Et donc, en fait, les coups de botte de la junte militaire, c'était sur tout le monde. C'était pas... Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime pas ce discours. Je trouve tellement réducteur. À un moment, quand toi, finalement, tu portes juste une histoire et que tu veux mettre... Tu demandes que de la justice, tu vois, et surtout que ça se répète pas. C'est quand on renvoie, ah oui, mais vous étiez des politiques, ah oui, mais c'était pas, ça n'allait pas marcher. Oui, mais enfin, tu vois, tout ça, c'est une manière de finalement de trouver des justifications aux actes qu'on fait les militaires de mon pays.
Attendons. Est-ce qu'on attend vraiment ? C'est le titre du morceau. Est-ce qu'on accepte d'attendre encore ?
Oui.
Anita Baliajo au piano. Radio Libertaire, Flemmard disait « Réveille-moi avec l'accent circonflexe de rêve, ne trouble pas ma sieste ». Sébastien Castro est l'invité du jour. Pour d'autres jours viendront, l'exil et la mémoire, chronique théâtrale, Al Duende à Ivry, c'est 23 rue Hoche. Réservation 01 46 71 52 29, je le répète, 01 46 71 52 29. Ah, ce serait capable d'oublier Et c'est au métro Mairie d'Ivry, terminus de la ligne 7, ou alors RERC, gare d'Ivry, qui n'est pas très loin.
Exactement, et c'est important.
Il y a un tram aussi.
Il y a un tram aussi maintenant. Également. Et puis de préciser qu'en en fait, il reste des places uniquement pour jeudi, puisque les représentations de vendredi et samedi sont déjà complètes.
Et oui, puis ce n'est pas marqué sur le prospectus que vous jouez le jeudi.
Ouais,
alors c'est pour ça qu'il reste des places, parce que ce n'est pas
faute,
écrit.
C'est une faute qu'on a eue. Tu sais, on est c'est ça le collectif, hein. Des fois, c'est une faute commune.
Ce jeudi-là ?
C'est jeudi-là, oui, effectivement.
Il reste vraiment des places ?
Là, il doit rester une vingtaine de places, oui. Mais bon. C'est les seules places qui a, vendredi et samedi, on est déjà complet. Enfin, on était déjà depuis quelques semaines. Donc,
Et si on vient on peut venir.
Hein. Des fois, tu sais, il y a des désistements. Des fois, il y a des places qui restent. Mais comme je te disais, on a vraiment eu... C'est magnifique, en fait, ce qui s'est passé avec ce spectacle. On a vraiment eu... Voilà, ça fait chaud au cœur de voir tout ça, en fait, de tout ce public nombreux qui vient, qui partage avec nous cette histoire. C'est précieux.
Mais les Chiliens qui sont en France, ils sont disséminés un peu partout. Hein.
C'est vrai, et puis ils ne racontent pas forcément... ils sont peut-être pour certains moins dans la transmission.
Mais alors, la transmission... J'ai remarqué, enfin, c'est pas scientifique ce que je dis, c'est pas la loi des grands nombres, mais j'ai quand même l'intuition qu'elle saute souvent une génération. Et vous, les enfants d'Oscar et d'Anita, vous avez été un peu une exception à porter si fort l'héritage de vos parents et la souffrance.
En fait, c'est parce qu'en fait, comme on a travaillé, en fait, quelque part, le théâtre, c'est la cause de la tragédie, c'est le théâtre, que je parle de la tragédie familiale. C'est-à-dire qu'on a arrêté mes parents parce qu'ils faisaient du théâtre. Et on a arrêté... Et ma grand-mère et Johnny McLeod ont été portés disparus à cause du théâtre aussi, puisque, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, on le raconte dans la pièce, un membre du MIR qui s'appelait Hernán Aguiló, un membre important du MIR, craignait pour sa vie, donc il fallait le cacher quelque part. C'est ma tante Marietta qui l'a caché dans la maison de ses parents, mais caché, c'était quoi, une semaine, trois jours, je sais pas, quelque chose comme ça, tu vois. Et entre-temps, ils ont arrêté un jeune gars qui faisait les affiches des spectacles, qui s'appelait Hernán. Umberto, voilà, c'est ça, qui s'appelait Umberto. Et sous la torture, il a donné des noms pour savoir où était Aguiló. Et il a donné l'adresse de ma mère et l'adresse de ma tante et d'Oscar, donc de mon père. Et donc, évidemment, quand ils sont allés chez ma tante, il n'était plus là, Aguiló. Ils ont emprisonné ma tante. Ils sont allés chez ma mère, ils ont emprisonné mon père. Ils sont allés en camp. À ce moment-là, ma grand-mère et Johnny voulaient aller les voir. Et ma tante Marietta a demandé à ma grand-mère qu'elle lui apporte une trousse de maquillage. Et alors, ça peut paraître paradoxal de dire pourquoi tu es en prison, enfin en camp, et tu demandes une trousse de maquillage. Et en fait, ma grand-mère demandait une trousse de maquillage. Enfin, ma tante demandait une trousse de maquillage pour faire du théâtre, pour se maquiller et faire du théâtre à l'intérieur du camp. Et quand elle est venue avec la trousse de maquillage, Hernán Aguiló avait mis des microfilms qu'il devait cacher quelque part et il les a mis, peut-être dans un moment où il devait partir, je ne sais pas. Il les a mis dans la trousse de maquillage de ma tante. Ce qui fait que ma grand-mère a pris cette trousse de maquillage et est partie en camp. Les soldats, en fouillant, ont trouvé le microfilm et c'est le début de la tragédie. Donc, le théâtre en soi, le théâtre, c'est ce qui a provoqué tout ça. Le théâtre, c'est ce qui fait qu'on a continué à vivre et qu'on continue à faire du théâtre ici. Et le théâtre, c'est ce qui a fait que, comme tu disais dans ta question, moi et ma sœur, on a été... tout de suite, on a porté cette histoire, parce qu'à travers les pièces de théâtre de nos parents, on racontait, pas directement, mais sous forme de métaphore, un petit peu ce qui s'était passé dans notre pays. Donc c'est pour ça qu'on a vécu ça, parce qu'on était... on jouait ces spectacles-là, donc petit à petit, on s'est réapproprié cette histoire. Mais oui, le théâtre, c'est ce qui... est au cœur de toute notre histoire familiale. Et c'est pour ça que, pour nous, c'est tellement important, que c'est quelque chose de vital et qu'on continue à en faire.
Alors, pour les enfants, les jeunes enfants maintenant, il y a une personne emblématique. Mm-hmm. En fait, C'est affreux ce que je vais te dire, mais c'est grâce à Victor Jara que l'horreur du Chili n'a pas été passée à la trappe.
Bien sûr. Ah oui, non, mais...
Il y a un petit bouquin pour les enfants dans, pour les à peu près 10 ans, toi, 8, à partir de 8 ans. Ils ont dit non. Il y a des tas de gens dans cette collection et il y a Victor Jara.
Mais oui, non, mais c'est très important. En plus, là, c'est là que tu vois le... En fait, le Chili, c'est un pays de poètes, de musiciens, d'artistes aussi. Enfin, comme,
oui, il y a
comme
Neruda.
Plein de pays, il y a Neruda. Mais là, en l'occurrence, c'était très... Là, on rejoint ce qui se passait avec l'Unité Populaire et Allende. C'est finalement des artistes qui s'impliquaient, tu vois, qui s'impliquaient dans... Parce qu'en fait, à ce moment-là, les habitants du Chili manquaient de tout. Donc, la culture, c'était quelque chose de très important. Et puis, quel poète, Victor Jara, et quel symbole. En fait,
mais
ce
oui,
qu'ils lui ont fait. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Enfin, lui couper les mains. Enfin, tu vois, enfin, toute cette histoire-là, enfin, c'est d'une brutalité inouïe. Et finalement, se rendre compte que des années après, maintenant, au Chili, il y a une statue. Ils ont fait une statue dans un parc. Une statue de Victor, tu vois. C'est tellement important parce qu'il y a encore ça, tu vois. Il y a encore ce truc-là. Et c'est important parce que ça, tu ne peux pas l'enlever. C'est-à-dire que là, c'est su, c'est documenté. Donc ce symbole-là, c'est comme finalement ce qu'a fait Allende.
Oui, dans ce stade, maintenant
voilà.
Tout le monde le sait.
Tout le monde sait qu'il s'est passé ça dans le stade. Et il représente toutes ces personnes-là. Et même Allende, en fait, si tu vois son dernier discours, qui est dans le spectacle aussi.
Oui.
Et en fait, son positionnement en tant que comme politique, tu vois, c'est-à-dire que tu vois que finalement, il décide à un moment, il se dit non, mais moi, je vais... Il se transforme en symbole, il le sait qu'il va vers cette mort-là. Il sait qu'il va vers cette tragédie-là, il sait qu'il n'a pas le choix. Mais il n'a pas le choix. Il aurait pu avoir le choix. Il aurait pu s'échapper. Il aurait pu. Mais dans ce cas-là, tu vois, il avait que ce poids-là à donner à la brutalité. Il avait juste le fait de pas laisser la possibilité à la junte de le traiter de poltron ou de voilà. Donc lui, il allait jusqu'au bout de ses convictions. Et c'est quand même deux beaux exemples de lutte, je dirais, un artiste comme Victor Jara et un homme politique comme Salvador Allende.
Là, je vais diffuser, comme les morceaux de musique sont courts, on peut en diffuser beaucoup. Il y en a un symboliquement, chemin, poussière. Cette histoire n'est pas envahie par la poussière.
Exactement.
Quand tu parles des microfilms, des camps de concentration, il y a des grands débats sur la différence entre les camps, les natures des camps. C'était des camps de concentration ou d'extermination, même s'il n'y avait pas de chambre à gaz. Qu'est-ce qui se passait dans les camps? C'était
alors,
des camps de quoi exactement? Parce que concentration, c'est un peu vague comme terme.
Non, mais c'est vrai que souvent, quand on entend camp de concentration, tu as l'image des camps de concentration nazis. Ou espagnols, évidemment. Mais en fait, les camps de concentration chiliens, souvent, c'était sur des lieux qui étaient, par exemple, mon père, je sais qu'il allait dans un camp qui était en fait une sorte de... comment dire, de Club Med, on va dire, tu vois. C'est-à-dire que Club Med.
De Club Med.
C'est-à-dire, quand je dis Club Med, c'est pas le camp en soi, la construction. C'est-à-dire que c'était.
D'accord. Tu oui, vois, c'était. Voilà. Précise, voilà, parce que je précise très bien.
Non, non. Enfin, je dis Club Med, mais c'est un
centre.
C'est un centre de vacances. C'était un centre de vacances, un ancien centre de vacances.
Transformé
en camp de concentration. C'est-à-dire qu'il y a des baraquements, tu vois. Donc il y a des choses qu'ils ont construites et des choses qu'ils ont, transformées, tu vois. Donc en fait, les camps de concentration, il ne faut pas oublier que c'était des lieux où on pouvait tuer des gens, effectivement. On pouvait assassiner ou fusiller. Parce que mon père a vécu à cette époque-là pas mal de. Il me disait des moments où on te fusillait, mais pour de faux. Tu sais, on t'amenait, on te mettait le bandeau dans les yeux, on te mettait, hop, et. On tirait en l'air. Bon, ça, c'est, donc, ça restait quand même un centre de, où on pouvait te tabasser à n'importe quel moment. Alors, c'était pas évidemment à l'échelle de ce que faisaient les nazis avec cette idée de solution finale, etc., etc. Mais c'était quand même des lieux où finalement tu gardais en fait les prisonniers soi-disant subversifs, les hommes politiques et les militants, les artistes, etc. Donc, c'était des lieux. Oui, complexe, compliqué. Mon père m'en a jamais vraiment parlé comme. Alors ça, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Quand je parlais avec mon père de ça, même dernièrement dans les dernières conversations, parce qu'à un moment je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus. Il m'a dit non, mais j'ai pas trop envie de t'en parler. C'est-à-dire qu'il m'a toujours parlé de ça comme quelque chose de où il faisait du théâtre, parce qu'il faisait du théâtre dans les camps de concentration, comme ma tante Marietta. Et tous les vendredis, il faisait une pièce. Alors, il m'a raconté plein d'anecdotes qui étaient même drôle en soi, tu vois, c'est-à-dire drôle dans le sens où je pense que pour lui, c'était important de garder cette notion d'humanité. Et donc, l'humanité, elle ne se vit que dans le rire, que dans la joie, que dans ce genre de choses. Ça, c'est la forme de résistance qu'ils avaient. Donc, quand il me parlait des camps de concentration, mon père, il me parlait beaucoup de moments presque ludiques, tu vois. Alors, c'est paradoxal, hein, parce que la violence, justement, quand je lui ai posé la question pour lui demander si cette violence existait ou comment elle était, il n'a pas voulu m'en parler. Donc, je pense qu'aux violences, oui, il y en avait, et je pense que cette violence, elle devait être très, très forte. Mais néanmoins, lui, il éludait la question et il préférait m'en parler comme un endroit où, justement, tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. À un moment, il me disait qu'il y a eu des moments où, évidemment, quand il a appris que sa mère elle avait été tuée, il l'a appris en camp de concentration, hein, quand ils ont assassiné sa mère.
Mais alors, concrètement, qui est-ce qui lui a dit, un autre prisonnier ?
C'est un autre prisonnier, oui. Tu vois, donc imagine la douleur, enfin... Et je pense que sciemment aussi, peut-être que les militaires lui ont dit. Enfin, je sais pas, tu vois, là, je sais. Mais c'est terrible. Enfin, je veux dire, d'un coup, t'es prisonnier, on vient d'apprendre que ta mère, ils l'ont assassiné. Et encore, tu sais pas trop.
Tu sais pas trop au bout de combien de tortures.
Bon, bref, donc tu vois, et il me disait que souvent, quand les militaires les voyaient pleurer, eux riaient en pleurant. C'est-à-dire qu'ils préféraient que les militaires croient qu'ils étaient morts de rire plutôt qu'en train de pleurer. Parce que là, il disait, ils nous tuent deux fois, sinon. Tu vois,
ça c'est facile parce qu'ils ont fait du théâtre.
Non, je pense que là,
quand on n'a pas fait du théâtre, on aurait peut-être du mal.
Non, je pense qu'à ce moment-là, c'était. Alors évidemment, mais moi je pense qu'à ce moment-là, dans ces moments si extrêmes, je ne sais pas ce qui est théâtre ou pas théâtre, ce qui est réalité ou fiction, tu vois. C'est-à-dire que peut-être que c'était une forme aussi de résister les uns avec les autres, tu vois, parce que c'était pas que des comédiens qui faisaient semblant de rire en pleurant. C'était aussi, tu vois, dans les baraquements, tu vois. Donc c'est d'un coup, ils s'aidaient les uns les autres, justement pour dépasser ces moments qui étaient douloureux.
Il y avait de l'entraide chez les prisonniers.
Bien sûr, il y avait de l'entraide. Il y avait, bah oui. Et puis il y avait des. Alors, c'est ce qu'il me racontait. Au bout d'un moment, dans certains camps, il y avait des noms de rues. Tu vois, ils inventaient des noms de rues. Mon père était maire aussi d'un camp de concentration.
Maire alors, ça, entre
c'est...
guillemets.
Maire, alors c'est... Ouais. Maire, oui. Mais ça, c'est un délire qu'ils avaient inventé. Parce qu'à un moment, ils commençaient à faire beaucoup de théâtre. Et puis bon, ça faisait un moment qu'ils étaient là. Et donc, au moment où arrivaient les nouveaux prisonniers. Mon père arrivait, il se mettait dans une brouette avec un costume genre de frac, tu vois, avec un haut de forme, et il disait aux prisonniers, il faisait un discours de bienvenue aux prisonniers, en disant voilà, on est désolé, vous arrivez pour la nouvelle Olympiade, la route, elle n'était pas super bien quand vous êtes arrivé, on est désolé, il n'y a pas beaucoup de confort. Et les gars, ils sortaient de maisons de torture, hein, ils étaient dévastés. Et les gars, ils disaient mais putain, le pauvre, il disait mon père,
fou.
Il est devenu fou, tu vois.
Ouais.
Et en fait, je ne sais pas comment il avait réussi quand même, parce que c'est quand même assez hallucinant de se dire qu'il a réussi à proposer ça aux militaires. Parce que je veux dire...
Bah oui, parce que j'allais
c'est,
dire...
C'est complètement
dans
fou.
Dans les camps de concentration, on fait travailler...
Je sais pas.
Mais là, il a réussi.
Il a réussi à faire du théâtre tous les vendredis. Et les soldats voyaient les spectacles. Je sais pas.
Et même ça. Les soldats voyaient le spectacle.
Et les soldats voyaient les spectacles, mais avec des armes, derrière les prisonniers. Tu vois, t'avais les prisonniers qui étaient assis, lui qui faisait le spectacle avec d'autres prisonniers. Et derrière, il y a des dessins. Moi, j'ai trouvé... Enfin, on a des dessins, c'est des documents où tu vois les soldats derrière avec les fusils qui pointent, parce qu'on ne sait jamais ce qui pouvait se passer. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Je ne sais pas comment mon père a réussi à être le maire de si tu veux, le maire de ce camp de concentration. Il me racontait aussi qu'il devait, par exemple, quand il écrivait les pièces, il devait contourner la censure, tu vois. Et donc, à un moment, il se dit, mince, bon, il écrit une pièce et il se dit, bon, il faut trouver un nom d'auteur. Alors, avec des potes, ils disent, bon, on va l'appeler. Le camp de concentration où il était, il s'appelait Melinka. Donc, ils ont fait l'anagramme, ils ont inventé un auteur qui s'appelait Émile Kahn. Tu vois, Melinka, Émile Kahn. Et ils vont voir le colonel, tu vois, le commandant, enfin, le colonel, le commandant en chef du camp. Et ils vont là-bas, ils disent, voilà, on vient voir, parce que la pièce qu'on va faire vendredi prochain, c'est la pièce d'un auteur polonais, juif polonais, arrêté dans les camps de concentration nazis, qui s'appelle Émile Kahn. Et le commandant en chef, il les arrête, il lui fait, non, je le connais. Et à ce moment-là, eux, ils restent comme ça, tu vois. Et ça, c'est l'histoire qu'ils me racontaient. Hein. Et d'un coup, ils sortent comme ça, ils sortent du de la réunion avec le commandant en chef. Et ses potes, les potes de mon père, ils étaient morts de rire. Ils disent, mais quel ignorant, mais il est débile. Et à un moment, mon père, il dit, mais attends, peut-être que le gars, il existe, et les ignorants, c'est nous. tu vois. Mais
parce donc, que Cannes, c'est un nom très court.
Oui, c'est ça. Mais bref, en tout cas, c'est pour te dire que. Ça, c'est les histoires que mon père me racontait. Tu vois, c'est des histoires qui sont très drôles, ça, qui sont très belles aussi. Par exemple, ma maman me disait qu'il faisait du cinéma. Par exemple, il prenait un drap et ils avaient récupéré une machine, tu sais, où tu peux mettre des diapositives ou des... Non, pas des diapositives, tu sais, les trucs qu'il y avait dans les écoles avant, avec un grand miroir, un rétroprojecteur.
Ah oui.
Voilà, ils avaient récupéré un rétroprojecteur, je ne sais pas comment. Peut-être justement parce qu'ils étaient dans ces lieux qui étaient réaménagés, c'était une ancienne école. Je ne sais pas, il y avait ce matériel-là. Et ils demandaient les photos. Aux autres prisonniers, tu as les photos de famille et d'un coup, par exemple, ou des photos qui se trouvaient dans les journaux, et il me disait qu'il mettait la radio, il mettait de la musique, il mettait un drap et il mettait en fait ces photos-là et il faisait bouger le drap en mettant de la musique et c'était comme une projection cinématographique, tu vois. Donc ils ont inventé plein de choses. Il faisait des pièces de théâtre comme ça tous les vendredis et mon père me racontait aussi que les prisonniers souvent lui disaient. Tu sais, compañero, tu vois, il disait à Oscar, j'étais tellement bien quand je regardais le spectacle que j'ai pas osé regarder ni à gauche ni à droite parce que l'espace d'un instant, je pensais que j'étais avec ma femme à côté, tu vois. Et donc, je pense que... Et c'est pour ça que mon père a été très aussi aimé par ces gens-là qui ont vécu tout ça parce qu'il leur a permis à travers lui en fait, ce que j'ai su après, parce que ça, il me l'a dit aussi, le fait de jouer toutes les semaines comme sa mère, il avait été porté disparu, c'est une manière pour lui de dire « je suis encore vivant », tu vois. Ils m'ont pas, tu vois, donc ils se mettaient en scène.
Ils m'ont pas détruit mentalement non plus.
Mentalement, et puis ils vont pas me faire disparaître parce que je sais que je vais jouer vendredi. Et si je joue pas, ça veut dire qu'il est où, Oscar ? Tu vois, il avait quand même cette pensée-là. Et d'un autre côté, c'est un espace de liberté qu'ils ont réussi à gagner, et d'inventivité et de création. Et ça, en fait,
mais ça, c'est très ce qu'il étonnant, me racontait. Cet espace de liberté.
C'est très étonnant, mais il faut pas oublier aussi que, comme je te dis, c'est aussi une discussion entre un père et son fils et un père qui peut-être voulait protéger son fils des atrocités que son père aurait vraiment vécu, tu vois, c'est-à-dire que là il me montrait la partie positive ou belle de ce qu'il avait vécu, mais à partir du moment où j'allais dans la conversation avec lui dans des choses un peu plus tu vois, où je lui dis mais comment c'était réellement dans la douleur. Là, il veut pas, il a pas voulu m'en parler. Et je pense que c'est sa pudeur, et je pense que c'est bien qu'il n'ait pas voulu en parler. Parce que finalement, tu vois, là, à travers ce spectacle, on récupère un peu plus de cette tragédie, on met en avant certaines choses qui sont moins dans... Parce qu'en fait, il faut en parler aussi. Mais on est un peu plus préparé pour en parler. Et je pense que voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on nous a construit.
Il les a travaillé dans les camps de concentration.
Les comédiens ?
Non, mais les gens.
Ah, bien sûr, oui. Mon père me racontait qu'il devait faire. il me disait qu'en fait, il faisait des trous et puis il rebouchait les trous. Il faisait des trous et rebouchait les trous. Il faisait des trous et rebouchait les trous. C'est des trucs comme ça, tu vois. Enfin, c'est des trucs où casser des cailloux. Enfin, c'était des trucs complètement cons, quoi. Enfin, je veux dire, il disait oui, enfin oui, il y avait un travail, mais c'était totalement stupide. C'était pas bon. Après ça, c'est son expérience. Après moi, tu vois, comme je te dis, c'est pas, c'est des choses que il a, c'est un témoignage direct entre un père et son fils. Mais j'ai pas creusé la question. Je pense que ça, c'est son expérience, et il y a d'autres expériences qu'ont dû connaître d'autres familles chiliennes.
Si je passe mille et un jours.
Oui, mille et un jours, oui.
Ça va, je
oui, bien sûr,
ça,
mais
par
tout.
Il y en a tellement que
mais,
je.
Exactement,
sais pas
mais
trop
tous les morceaux quasiment sont dans le. Une bonne partie
ah,
des.
Ça dure 7 minutes 54, donc on parlera un petit peu par-dessus.
Exactement.
Radio Libertaire, Flemmardise et Réveille-Mot ne trouble pas ma sieste, avec Sébastien Castro qui représente le théâtre El Duende à Ivry. D'autres jours viendront, l'exil et la mémoire. Comment vous faites les ateliers pour les enfants? Est-ce que vous essayez de transmettre quelque chose de cette histoire avec un grand H?
Alors, en fait, je pense que ce qu'on transmet, justement, pour en revenir à la conversation précédente, c'est justement cette la liberté que nous procure cette activité, cette liberté, cette manière de voir la vie sous différents angles, cet esprit créatif. Cette ouverture à l'imaginaire, l'importance de se dire que on représente un personnage et que on va pouvoir raconter des histoires qui vont d'une certaine manière rebondir dans la vie des spectateurs. Enfin, partager, je pense, c'est l'art que nous faisons. Pour moi, c'est la suite logique de ce qu'on a vécu dans notre famille, c'est-à-dire que le théâtre pour nous est le plus important, c'est quelque chose de vital, et donc quelque part c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui d'une certaine manière nous permet de se dire que si tu changes une personne qui voit une pièce de théâtre, tu changes un petit peu l'humanité, tu peux changer certaines choses, tu peux changer des pensées, des regards, tu peux amener des gens vers des choses où ils n'iraient pas naturellement. Donc c'est tout ça qu'on essaye de transmettre. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est que quand on a et puis cette idée important aussi de troupe, de collectif, cette idée de se dire que tu es que ensemble on apprend quelque chose et qu'on partage quelque chose ensemble, et que suivant les défauts que tu peux avoir ou tes qualités, on essaie de trouver un équilibre et que chacun a sa place quelque part dans un récit. Et après, évidemment, pour revenir un petit peu à l'impact de la pièce, il y a beaucoup d'enfants, ados, pré-ados, qui nous connaissent depuis longtemps et qu'on suit dans nos cours de théâtre, de pratique amateur, qui ne connaissaient pas du tout cette histoire non plus, qui ne savaient pas d'où on venait, parce qu'on n'en parle pas forcément, même si El Duende, il y a ce côté hispanique,
oui,
qui est pour certains,
coquin,
voilà, c'est ça,
ouais.
Et qui savent que, bon, ben oui, ben, on vient du Chili, oui, mais ils ne savaient pas du tout l'histoire d'Anita, tu vois, par exemple, Anita, elle est toujours dans, enfin, je veux dire, c'est une compositrice incroyable, c'est une femme qui a un parcours hallucinant et qui pourtant vient jouer le piano dans les cours de pratique amateur et fait chanter tous les enfants, tu vois. Enfin, dans le sens où elle va faire ça et puis après elle va les nettoyer et préparer les toilettes, tu vois, pour les spectateurs. Ça, c'est, tu vois, je veux dire, elle a pas cet égo-là et d'un coup que les gens se disent, ah mince, wow, elle c'est Anita, elle a ce parcours, elle a vécu ça, enfin c'est important. Donc en fait cette histoire maintenant on la partage avec eux parce qu'il y a cette création là, tu vois. Donc et là ils comprennent aussi qui ont, enfin d'une certaine manière nous on a reçu en retour beaucoup de nos élèves ou des personnes qui nous connaissent ont compris aussi ce qu'on était à travers ce spectacle, c'est-à-dire pourquoi on a ce positionnement-là. On est quand même on est à Ivry, c'est pas rien. Ivry, pour nous, c'est une ville importante dans notre histoire.
Vous avez atterri à Ivry et vous y êtes resté.
On a atterri à Paris, dans le 14e, donc pas loin d'ici, on va dire. Et on est resté, je sais pas, pendant un an ou un an et demi. Et puis d'un coup, il fallait bouger. Il fallait trouver un logement plus grand parce qu'à l'époque on avait un tout petit logement, on était toute ma famille plus sa famille ma tante, et donc à un moment il était question de bouger. On était donc accueillis au Théâtre du Soleil, donc à Vincennes, et puis d'un coup le PC était très très fort à cette époque, donc il y a beaucoup de Chiliens qui sont allés dans le 93 vers Colombes par là.
Ah, c'est 92.
Et à Colombes c'est 92, moi.
Oui, je crois,
je connais pas ma géographie, et d'autres dans le 93. Et puis d'un coup, 94, Ivry, Vitry, c'est pas loin de Vincennes. Puis Ivry, voilà quoi. Et puis Ivry, c'est une ville que j'adore. Et on est resté là. C'est là qu'on a. Après, c'est là où on a construit nos lieux. C'est une ville magnifique. Elle est bigarrée, elle est pleine de. Elle est militante. Moi, j'aime beaucoup ma ville.
Hein, vous y habitez.
On y habite, ouais. On habite là-bas, ce qui me permet d'aller au théâtre à pied. Donc ça, c'est un luxe monumental. Mais tu vois, par exemple, quand on a joué devant des lycéens, là, c'était un des lycées qu'on a reçu, c'est le lycée Romain Rolland. Et c'était très beau parce qu'à un moment, ma sœur, elle dit, bon, bah, moi, j'étais au lycée Romain Rolland, comme vous, il y a quelques années, tu vois. Donc... ça fait sens de dire que tu reçois des élèves de ce lycée-là, que c'était ton lycée, que tu racontes cette histoire-là, parce qu'en fait, cette intimité de dire d'où tu viens, elle est tellement importante, à transmettre, et se dire que finalement, t'as usé tes fonds de culotte sur les mêmes chaises ou les mêmes bancs que les élèves qui sont en face de toi à ce moment-là. Enfin, je trouve que ça fait sens, c'est intéressant. Mais je pense que l'art en général, de toute façon, c'est c'est dangereux, c'est subversif, dans un sens où ça te permet de déconstruire des discours, d'en créer d'autres. Enfin, je trouve que c'est un bel. Moi, j'aime beaucoup le théâtre. Enfin, j'en fais, je suis passionné, mais tu vois, on est dans un moment où le virtuel, les écrans ont vraiment beaucoup envahi. T'en parlais tout à l'heure, du fait de dire ouais, les jeunes ne regardaient pas leur téléphone, etc. Mais cet art vivant, tu vois, je trouve qu'il prend de plus en plus d'importance, dans le sens où d'un moment tu vas t'asseoir, tu vas avoir quelqu'un de vivant devant toi, tu vas devoir supporter des fois, parce que tu as des pièces un peu longues ou qui peuvent être ennuyeuses, hein, ça existe comme tout, mais il faut écouter, t'apprends à écouter aussi, parce que des fois t'as des conversations qui sont pas forcément intéressantes, et puis à un moment tu t'ennuies, puis à un moment tac, dans cette conversation, dans une personne que tu rencontres, il y a quelque chose qui se passe. Et donc le théâtre, c'est ça pour moi aussi, c'est-à-dire
je me suis jamais ennuyée au Duende.
Merci.
J'y vais régulièrement.
C'est gentil, Florence.
Là, il va bientôt falloir laisser
les micros.
J'ai failli dire l'écran, le micro à l'émission suivante. Le Club Ferré, je voudrais te remercier, Sébastien, vraiment. Et puis j'espère que vous allez reprendre, d'autres jours viendront, parce que j'ai d'autres personnes à emmener et qui n'ont pas pu y aller. C'est terrible.
Écoute, moi je pense qu'on va reprendre, d'autres jours viendront, et je te promets que j'arriverai à amener ma mère et ma sœur la prochaine fois.
Ouais.
D'accord, c'est une promesse que je te fais, Florence, sur les ondes. On va y arriver.
Mais ta sœur voulait venir.
Ma sœur, ouais, mais
elle avait dit oui, je viendrai. Et
non, mais je sais, mais après, ça, tu sais, c'est souvent comme je te disais tout à l'heure, dans notre mode de fonctionnement, on est au four et au moulin, vraiment. Donc c'était compliqué pour elle de venir, mais moi je suis très contente de ce moment de partage, et c'est très agréable d'avoir ce temps de partage d'émotions. C'est pas rien, parce qu'on l'a. Souvent, on coupe les choses et là, on a ce temps-là. Merci beaucoup.
Alors, ben, je te coupe quand même. Et Le rêve est mon métier, c'est un récit poétique et musical, texte de Mahmoud Darwish, adaptation de Mona Taibbi. Et ça va être joué au Duende le 12 avril à 20h30 par une compagnie que vous invitez qui s'appelle Exactement. La Compagnie Devant Nous. Voilà.
Merci Florence.
Eh bien, au revoir.
Et à bientôt,
Maintenant,
au revoir.
L'indicatif.
Rocío en las manos, rocío, aguadas del cielo, tierra mía y solo la inmensa marea, las estrellas soles, no bajes sediento al árbol que tanto te ama, lo que fue, fue para siempre, lo que queda son las raíces que se asoman transparentes, tus flores ya dan sus colores. Se asoman transparentes, tus flores ya dan sus colores. Los labios del sueño, olvido de palabras, los dedos del viento. Soy el árbol del que eres sol. Rocío en las manos, rocío, aguadas del cielo, tierra mía y sola, la inmensa marea, las estrellas soles, no dejes sediento al árbol que tanto te ama, lo que fue, fue para siempre, que queda son las raíces, no dejes sediento al árbol que tanto te ama.